Les lundis cosmopolites sont des forums politiques autour de la multiculturalité bruxelloise, la plus diverse d'Europe selon l'origine de ses habitants, bien loin devant Paris, Londres, Amsterdam, Rotterdam, Madrid et Milan. À Bruxelles, en 2021, 22,7% de la population avait deux parents nés belges, pour 40% en Wallonie et 70% en Flandre. Sous l'égide de la Ligue des droits humains, les lundis cosmopolites questionnent chaque mois et mettent en débat la super diversité de la région bruxelloise. Depuis des années, des dizaines de milliers de personnes sans papier vivent à Bruxelles. Elles constituent une composante ignorée des statistiques sur la diversité de Bruxelles. Elles n'ont pas le droit d'être là, on sait qu'elles sont là. Et on les laisse là dans des conditions limites. Le 4 décembre 2023, la journaliste Mariam Ben Salah et le politiste Henri Goldman posaient les questions « Que font les sans-papiers ? Que faire des sans-papiers ?» Avec Tamimount Essaidi, de la maison de quartier Saint-Antoine à Forêt, Pierre Verberen, directeur du CPS de la ville de Bruxelles, François De Smet, président de Défi et ancien directeur du MIRIA, le Centre fédéral Migration. C'est Sotie Tango, directrice de la Coordination Initiative pour Réfugiés et Étrangers, le CIRÉ, qui nous donne quelques points de repère sur les sans-papiers.
Alors, cadrer la situation, le nombre, les personnes sans-papiers en Belgique. Et en fait, j'ai un premier problème, c'est que on sait, vous savez qui êtes dans la salle, qu'il y a des milliers de personnes sans-papiers, mais en fait, commencer à essayer de définir de qui on parle, quelles sont les conditions de vie, quelles sont les activités, quelles sont les compositions de ménage. En parlant avec Henri, il voulait savoir les pays d'origine, les compositions de ménage, la proportion d'enfants, de mineurs, de personnes nées sans-papiers, devenues adultes sans-papiers. Et le premier problème qu'on a, c'est que les personnes sans-papiers ne peuvent pas s'enregistrer. Il n'y a aucune possibilité de se déclarer comme sans-papiers. Lorsqu'on est sans-papiers, on se terre, a priori, et on essaye de survivre en évitant de se faire trop remarquer. Parce que se faire remarquer, que ce soit parce qu'on veut dénoncer quelque chose, ou que ce soit parce qu'il y a une infraction qui est commise, eh bien, il y a une prise de danger. Et donc, commencer à définir de qui on parle, c'est très problématique, et c'est très problématique non seulement pour introduire un débat, mais c'est très problématique de ne pas savoir de qui on parle pour pouvoir éventuellement mener des politiques adéquates en la matière. Alors, je ne vais pas m'arrêter là malgré tout, même si je ne serai pas très longue. Commencer par le commencement, les personnes sans papier ne sont pas toutes arrivées sans papier. Il y a évidemment des personnes qui sont arrivées sur le territoire avec des papiers. Il y a une grande majorité de personnes sans papier qui sont arrivées avec un titre de séjour et qui l'ont perdu. Ce qu'on appelle, et de plus en plus, la fabrique des sans-papiers s'est abattue sur ces personnes. Donc le principal canal officiel de migration en Belgique, c'est le regroupement familial. Il faut savoir que ce principal canal, c'est plus de 40% hein, des demandes de séjour en Belgique. Ce principal canal dysfonctionne à mains égards parce qu'il suffit qu'on ne soit pas dans une situation de parents qui rejoignent des enfants mineurs ou inversement, eh bien, on sort du regroupement familial. Le conjoint fait partie aussi des personnes qui peuvent bénéficier d'un regroupement familial. Mais les fratries, jamais. Les enfants majeurs, jamais. Donc, on est dans des situations de regroupement familial extrêmement serrées, et ça, c'est la loi qui le précise. Et puis, il y a un examen qui est conditionné, enfin, qui conditionne le titre de séjour à de nombreuses exigences, comme le fait d'avoir des revenus très important pour pouvoir se faire rejoindre, un logement, et toutes ces conditions doivent être remplies au moment où la demande est introduite. Il suffit qu'une des conditions ne soit pas rencontrée, soit au moment de l'introduction de la demande, mais aussi au moment du renouvellement, le titre de séjour est perdu. Et on passe d'une catégorie de personnes en situation régulière, étrangers autorisés au séjour, à la catégorie étrangers en situation irrégulière, les sans-papiers. Alors, il y a aussi la deuxième voie de séjour, c'est le séjour étudiant. On le sait, le séjour étudiant est très compliqué, non seulement pour l'obtenir, beaucoup de conditions sont à remplir, notamment le fait d'avoir un garant, et pas n'importe quel garant. Il faut un garant qui n'a pas de pépin au niveau de son travail, parce que les revenus de ce garant doivent aussi rester élevés tout le temps des études, sinon ça vient interrompre le séjour étudiant. Ce ne sont que deux illustrations des situations dans lesquelles des personnes étrangères sont arrivées avec un titre de séjour et le perdent en cours de route. Une dernière illustration, ben, les demandeurs d'asile. Lorsqu'on introduit une demande d'asile, il y a une tolérance sur le territoire le temps de l'examen d'une demande d'asile. Mais lorsque la procédure se termine négativement, eh bien, on tombe dans la catégorie de demandeurs d'asile à personnes sans papier. Donc autant de situations dans lesquelles les personnes n'ont pas toujours été sans papier. La fabrique des sans-papiers a fonctionné et pour autant, les personnes se retrouvent avec un ordre de quitter le territoire, mais dans l'impossibilité de l'exécuter. Alors à côté de ces situations où les personnes sont arrivées avec un titre de séjour mais n'ont pas pu le renouveler, il y a les personnes qui sont arrivées sans titre de séjour et qui n'ont jamais, jamais obtenu de décision positive à toutes les demandes qui ont été introduites. Et donc ça, ce sont les personnes qui ne sont pas comptabilisées parce qu'arrivées dans la clandestinité et délivrance d'un ordre de quitter le territoire immédiatement. Inutile de vous dire qu'essayer de catégoriser les personnes sans papier comme une catégorie de population, un sexe, un âge, une activité et un motif de migration, c'est impossible. Les situations de sans-papiers sont multiples, complexes, et bien souvent plusieurs procédures ont été tentées et rien n'a marché. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que cette fabrique des sans-papiers, ce sont des choix politiques qui sont à l'œuvre. Aujourd'hui, la secrétaire d'État actuelle a pour ambition, et ce n'est que la troisième hein, avec cette fonction, à essayer de réparer des dysfonctionnements des procédures. Elle n'a pas encore livré le résultat de son exercice. C'est la première à s'y attaquer réellement. Je crains qu'on soit fortement déçus parce qu'il y a une grande consultation qui a été faite et, en fait, il va y avoir des clarifications dans la loi, mais il ne va probablement pas y avoir d'explication, par exemple, des circonstances qui permettent à une personne d'introduire une demande de séjour sur le territoire. Parce que c'est le sort des personnes sans papier, c'est qu'une fois qu'elles sont sur le territoire et sans papier, elles n'ont plus qu'une voie possible. Elles devraient pouvoir en avoir d'autres, mais elles doivent introduire une demande de régularisation. L'ancien 9-ter, devenu 9-bis, c'est la seule procédure qui peut être introduite à partir du territoire lorsqu'on est sans papier. Alors, essayer de quantifier cette population, c'est compliqué jusqu'à une récente étude de la VUB. Donc pour l'instant, deux études, et c'est celle dont je vais vous parler, deux études ont été faites, une par le Bureau d'études des sans-papiers, une par la VUB, et je vais vous expliquer ce qu'elles apportent, parce qu'il va falloir essayer de les croiser pour avoir les données les plus exactes sur la population dont on parle. Alors, d'après l'étude de la VUB, la première technique qui a été utilisée s'est écartée de toutes les méthodologies développées jusqu'à présent pour essayer de dénombrer les personnes qui se tairent. Et donc, les chercheurs de la VUB sont partis d'une méthode originale. Elles ont regardé les décès dans la population. Et parmi les décès, elles ont regardé qui était décédé alors que l'on ne savait pas que la personne était présente sur le territoire. Et en extrapolant les données, eh bien, elles ont permis de chiffrer, de donner un chiffre qui correspond plus ou moins aux estimations que l'on faisait ici et là. D'après cette étude de la VUB, qui est récente, hein, elle date de 2022 ou 23. Et elle est disponible, le résumé est disponible assez facilement, l'étude est plus importante. Elle chiffre le nombre de personnes sans papier originaires d'autres pays de l'Union européenne, originaires d'autres pays que l'Union européenne, à 112 000 personnes. 112 000 pour l'ensemble du territoire. Pas de ventilation régionale, une ventilation bruxelloise. Mais, que je vous cite, d'après l'étude, il y aurait 52 000 personnes sans papier à Bruxelles. Donc, une petite moitié de l'ensemble des personnes sans papier. Moi, je suis réservée sur ce chiffre. On pourra en débattre si ça intéresse. Je pense que c'est sous-estimé malgré tout, largement. Quand on voit les autres catégories de personnes étrangères et leur surreprésentation à Bruxelles, 52 000 ne me paraît pas être le bon chiffre. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que l'étude essaye de chiffrer aussi les personnes en séjour irrégulier alors qu'elles sont européennes. Et bien souvent, on ne comptabilise pas les Européens dans les sans-papiers. Parce que les sans-papiers, comme tout le monde sait, les Européens, comme tout le monde le sait, ont une liberté de circulation. Mais une liberté de circulation si elles travaillent et si elles parviennent à rester dans ce dispositif. Malgré tout, il est intéressant de vous dire que, d'après cette étude, il y a 294 000 personnes hors Union européenne en Belgique, dont 217 000 sans-papiers en Belgique. Et pour Bruxelles, ça porterait à 10 000 européens sans papier à Bruxelles. Alors, une estimation aussi, combien d'hommes, combien de femmes. D'après cette étude, pour les non-européens, il y aurait une majorité d'hommes, mais 58% d'hommes, pour 42% de femmes, et une moyenne d'âge, qui probablement se rapproche de la réalité, c'est de 32 ans. Alors, pour comparer à l'étude du bureau d'études des sans-papiers, les sans-papiers, donc cette étude date de plus longtemps, elle a été réalisée en 2018-2019 et se basait sur un échantillonnage. Et un échantillonnage dont l'étude reconnaît qu'il y a un biais, puisque l'échantillonnage a été réalisé essentiellement sur Bruxelles et là où il y avait des services sociaux qui participaient à l'étude. Donc il y a un biais géographique bruxellois, liégeois et verviétois. Mais donc, d'après cette étude, 70% des personnes sans papier vivent à Bruxelles. Et à mon avis, au-delà des biais, c'est une réalité. Il y a probablement entre 65 et 80% des personnes sans papier qui vivent à Bruxelles. Toujours d'après l'étude du bureau d'études des sans-papiers, 22% sont à Liège et à Verviers. La proportion hommes-femmes, c'est 68%, 32%, 68% pour les hommes, 32% pour les femmes. Et la moyenne d'âge, 38 ans. Ce qui est intéressant et qu'on ne retrouve pas dans l'étude de la VUB, c'est que d'après l'étude des sans-papiers, 14% des personnes sans-papiers sont présentes sur le territoire depuis avant 2008. Nous sommes en 2023, hein, donc ça fait 15 ans. 14%, 77% sont présents, enfin sont arrivés entre 2008 et 2014, et près de 10% sont là depuis après 2015. Alors, que vous dire d'autre ? Mais les constats que l'on peut faire et que l'étude de la VUB fait, puisque sa période observée, c'est de 98 à 2016, et c'est un constat que l'on fait aussi, c'est qu'il y a un vieillissement de la population sans papier. La moyenne d'âge augmente parce qu'elle était à moins de 25 ans jusqu'à très longtemps, et là, vous le voyez, 32 ans de moyenne d'âge. Mais forcément, les personnes sans papier continuent leur vie en Belgique, dans la situation sans papier, des enfants naissent et donc viennent baisser les moyennes, mais des personnes deviennent âgées. Des travailleurs, la fabrique des sans-papiers, ben, des travailleurs sans papier deviennent des vieux sans papier. Alors, autre constat, c'est que le nombre d'enfants diminue. Il y a probablement un effet des régularisations passées, puisque les enfants ont été une catégorie particulière. Hein, avoir des enfants scolarisés permettait, dans les opérations de régularisation qui ont eu lieu, d'obtenir plus facilement que lorsqu'on est une personne isolée, une régularisation de son séjour. Et donc, on voit que la proportion d'enfants diminue. Et enfin, on voit qu'il y a une grande concentration de la population non européenne à Bruxelles. Alors, je pourrais vous tenir toute la soirée en vous parlant des besoins fondamentaux des personnes sans papier. Je ne vais pas vous tenir toute la soirée là-dessus. Juste, qu'est-ce qui n'a pas changé depuis la dernière fois qu'on s'est intéressé, que les autorités se sont intéressées et ont pris des mesures critiquables, défaillantes, mais à l'égard des personnes sans papier, cette dernière période, c'était 2009. Avant 2009, c'était 1999. Donc on a cru, à un moment naïvement, que tous les 10 ans, il y aurait une opération de régularisation. Eh bien, nous sommes en 2023 et on ne voit toujours rien venir. Pourtant, en 99 et en 2009, les mêmes constats que ceux que l'on fait aujourd'hui sont faits. Les procédures dysfonctionnent, laissent sur le carreau des personnes qui construisent leur vie et qui ne rentreront pas, qui ne peuvent pas rentrer. Ce n'est pas une question simple de volonté, de « j'ai décidé de ne pas exécuter un ordre de quitter le territoire ». C'est qu'elles estiment avoir des raisons suffisantes que pour ne pas se mettre en danger en cas de retour ou ne pas quitter les personnes qui sont ici sur le sol belge. Et pourtant, aujourd'hui, la fabrique des sans-papiers tourne à plein régime. Vraiment. Certaines procédures ont été changées depuis la régularisation de 2009, mais aujourd'hui, les délivrances de titres de séjour, les régularisations, sont minces. Et ce qui n'a surtout pas changé, c'est que ça reste un pouvoir complètement discrétionnaire, pour ne pas dire complètement arbitraire, de la part des autorités, puisqu'il n'y a aucun critère. La dernière fois qu'on a entendu parler de critères, c'était dans la bouche du directeur général de l'Office des étrangers, lorsque la grève de la faim sévissait au Béguinage en 2021. Le directeur de l'Office des étrangers a dit, mais bien sûr qu'il y a des critères, vous vous dites bien qu'on ne va pas appliquer comme ça à la loterie la délivrance des titres de séjour, mais ces critères sont internes à l'administration, et donc toujours aucune transparence et aucune prévisibilité pour les personnes concernées, mais pour toutes les personnes qui les entourent aussi, les avocats notamment et les services sociaux, sur les conseils à donner lorsqu'on accompagne une personne sans papier, sur que faire, que réunir, qu'attendre pour introduire une demande de séjour et voir ses chances d'obtenir une régularisation être exaucées. Voici pour le cadrage du débat. C'est maigre, mais cette étude vient quand même objectiver un tout petit peu les choses. À ma connaissance, les autorités n'ont jamais réagi à cette étude et pourtant, avec cette objectivation, on peut effectivement confirmer qu'il y a une grosse commune bruxelloise, une petite ville, hein, on peut même parler d'une petite ville, dont la population est uniquement composée de personnes sans papier en Belgique, et ça fait depuis 2009 que rien ne se passe en la matière.
Merci Sati. Alors, une ou deux questions, si vous y tenez. Non, on arrête là. Voilà, merci Sati.
Merci. Finalement, avec des explications théoriques et quelques chiffres intéressants sur lesquels on pourrait encore rebondir, je pense qu'après la théorie, c'est bien d'avoir la pratique. Quand on est un peu allé à l'école, on sait que c'est souvent utile. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a toujours des grandes thèses sur qui sont les sans-papiers, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas quand il s'agit de femmes. Là, en l'occurrence, on a l'opportunité d'entendre des bouts de leurs expériences de vie respectives. C'est un peu particulier, c'est pas une interview que je vais faire en l'occurrence. Ça vous permet d'une part de vous présenter, de raconter un peu ce que vous voulez raconter de votre histoire de vie. Depuis quand vous êtes là et comment se fait-il que, alors que vous êtes là avec nous, vous êtes finalement invisible aux yeux d'une certaine partie de la société. Je ne sais pas qui va commencer. Je vous en prie. Je vous laisse.
Bon, moi, c'est Diallo Mohamed Taslim. Je viens au nom de la voix des sans-papiers. C'est pas Emirance aussi. Elle, donc, on habite dans le même bâtiment. Donc, elle vient aussi parler avec un représentant CSC, quoi. Donc, moi, ce que je peux dire, la question que vous venez de poser, qu'est-ce qu'ils font les sans-papiers? Donc, moi, je pense que donc, c'est une question réellement qu'il faudrait vraiment poser aux politiques, quoi. Parce que nous, les personnes sans-papiers, qu'est-ce que nous faisons? Franchement, depuis 2012, que je suis là en Belgique, et depuis 2014, je suis avec le groupe de la Voix des sans-papiers. Nous occupons des bâtiments. On a fait plus de 10 déménagements dans la commune ici, donc à Bruxelles ici. Donc on s'est fait voir pour montrer notre invisibilité donc, que nous subissons tous les jours. Donc c'est à partir de ce moment que nous avons essayé de créer des projets pour pouvoir lutter et encore pour pouvoir aussi pousser plus de personnes à notre cause, à notre vie, que donc nous subissons l'injustice. Moi, je peux dire, donc c'est ce racisme institutionnel aussi qui joue beaucoup à notre défaveur. Donc parce que donc si on voit nous dans notre occupation, on a le projet Yanamar qui fait pour comment accompagner une personne sans papier dans ses démarches administratives. On essaie de créer des outils pour pouvoir donc outiller les personnes sans papier, parce que quand on dit ici la question d'accueil, donc désolé franchement pour moi quand tu viens, donc ce qui se passe à l'office, c'est pas un accueil qu'on dit ça.
Justement, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez, si vous le voulez évidemment, quand vous êtes arrivé en Belgique, vous dites vous êtes arrivé en 2012, comment ça se passe quand on arrive finalement et on se dit, bon, bah, par où je vais commencer? Bah, par où vous avez commencé en arrivant dans votre parcours, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant?
Bon, c'est ça, je veux dire quoi. Moi, donc, quand je suis venu en Belgique ici, donc, je suis venu en tant que mineur non accompagné. Mais, donc, quand la personne qui m'a fait passer à l'aéroport, qui m'a amené jusqu'à devant l'Office des étrangers, il m'a dit, donc, vas-y là-bas, tu racontes tout ce que tu as vécu sur toi. C'est là-bas qu'il y a des personnes compétentes qui pourront t'aider. Donc, mais moi, à partir de ce moment, donc, j'avais donc, un certain espoir à moi, en me disant, ouais, je suis ici, là où il y a la démocratie qui domine, quand tu as la vérité, tu peux avoir donc, raison. Donc, je suis venu avec cet espoir, j'ai fait la file, et on m'a, donc, la manière dont on m'a accueilli, c'est pour ça que je dis, c'est par l'accueil, franchement, les questions qu'on me pose, les empreintes qu'on me met, et on me dit, bon... Je demande pourquoi ces empreintes. On me dit, bon, c'est pour que si jamais tu fais un crime, on peut savoir qui, si c'est toi ou pas. Mais moi qui viens d'arriver, pourquoi on me dit ces arts de questions ou des questions pièces de suspicion pour me prendre, donc me mettre même moi en doute de ma situation, faire des tests d'âge avec des tests qui ont été faits par d'autres personnes d'une autre...
Donc en arrivant, on vous place déjà dans une catégorie, c'est ce que vous voulez dire?
C'est ça quoi, donc c'est toutes ces choses, la manière dont on nous accueille franchement, donc pour moi c'est pas un accueil quoi, donc c'est à partir de ce moment que quand on m'a amené au centre d'accueil Petit Château que j'ai eu négatif et hors de quitter, c'est par la voie des sans-papiers que moi je me suis senti accueilli ici en Belgique, que j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé des frères, des soutiens, des amis. Sinon quand je suis venu en Belgique franchement le fait d'asile ne m'a rien donné de tout ça pour me mettre en confiance, pour que je puisse donc me confier librement avec eux. Mais les questions qui viennent, ce n'est pas pour que tu puisses te confier, quoi. Donc, c'est pour ça, si j'ai dit la question, on doit la poser sur le côté politique, parce que si on voit donc, tout ce qui se passe... sur la question, comme elle vient de dire aussi, on est en 2013, donc tout ce qui se passe sur la question des personnes sans papier, aucune parti politique jusqu'à présent, on en a parlé, commencé par Sophie Wilmès jusqu'à De Croo, personne jusqu'à la crise des migrants, les critères clairs, donc il n'y a pas de critères clairs, on est là, donc quand on parle des personnes sans papier, c'est s'il y a un scandale, qu'on parle s'il y a un enfant échoué à la plage, un mois, deux mois, il y a de l'hospitalité partout dans le monde, ou bien quand il y a des guerres quelque part, il y a de l'hospitalité, après c'est coupé, donc il y a d'autres publics qu'on accueille et d'autres non, on montre qu'on peut accueillir, donc c'est toutes ces choses que nous, on peut, donc on demande aux autres, la seule, moi, tristesse que je vois dans ce monde, c'est le fait que nous tous ensemble, on est là, on regarde plus la différence que le lien, quoi. Même quand j'ai dit sur la question du racisme institutionnel, quand on voit la différence entre un homme, ce qu'on dit, un blanc ou un noir ou un jaune, la différence est minime par rapport au lien, quoi, si on regarde. Donc, sur la question aussi des sans-papiers ici, si on regardait l'avantage des sans-papiers, c'est tellement nombreux par rapport aux inconvénients des pères, des pères non fondés qu'on crée, soi-disant des appels d'heure, alors que c'est, comme on l'a dit aussi, c'est cas par cas, chaque personne sans papier, c'est son histoire cas par cas. Donc il y a plein de choses, moi je pense, qu'il faut regarder, ignorer le peu de choses et voir donc, ce qui nous lie plus pour en bénéficier, quoi. C'est ça aussi, je ne sais pas.
Bonsoir tout le monde. Comme vous l'avez entendu, madame avait dit, nous sommes les produits fabriqués ici en Belgique des sans-papiers. Alors, je m'appelle Ernestine. Je suis de la Ligue CSC. C'est la Confédération des syndicats chrétiennes. Je représente les femmes domestiques travailleuses sans-papiers. Alors, toutes comme femmes, provenant des endroits quelconques du monde, de l'Amérique, de l'Afrique et partout, ou bien de l'Asie. Donc nous, on a quitté nos pays parce qu'on avait aussi des problèmes. Il y avait des problèmes de violence déjà, des violences, il y en a plusieurs, mais des violences conjugales, des mutilations génitales et même des problèmes politiques. Et nous sommes venus ici. En arrivant ici, si je peux un peu, souligner mon cas, moi, je suis arrivée en 2015, ici en Belgique. Mais là où on m'avait accueillie, en tout cas, franchement, on ne m'avait pas dit, on ne m'avait pas orientée d'aller me présenter dans une quelconque administration. Alors, je suis restée enfermée. J'ai rencontré la dame qui m'avait accueillie, était enceinte. J'ai pris soin de son enfant. Et la mise au monde, j'ai pris soin de son enfant jusqu'à 6 ans. Il a été scolarisé et j'ai continué de faire ce travail-là. Jusqu'à ce qu'elle propre m'a dit, sors de ma maison, je n'ai pas besoin de toi. Alors, c'est à ce moment-là, je suis allée chercher, comme Tassim l'a dit, l'occupation. J'ai parlé au représentant là-bas. Ils m'ont accueilli, ils m'ont donné une chambre. Donc, on habite les mêmes bâtiments, l'occupation... VSP, la voie des sans-papiers, Saint-Toussaint 47, Fritz-Toussaint 47. Mais aujourd'hui, bon, en passant, je vais parler de notre travail, la façon dont nous travaillons ici. En tout cas, nous travaillons dans des conditions précaires et difficiles. C'est pour cela, nous, femmes travailleuses domestiques sans-papiers avec la Ligue, nous avons proposé nos trois revendications auprès du gouvernement bruxellois et auprès des ministres de l'Emploi, que nous savons qu'il a des compétences pour résoudre nos problèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons? À part les violences subies au pays, quand nous sommes arrivés ici, ça continue. Surtout dans notre situation, comme on était, moi, étant enfermée, je ne savais même pas où aller. On me disait, si tu sors de là, la police va te prendre au coin de la rue. Donc, j'étais vraiment perdue. Alors, quand j'ai rencontré, quand je suis allée au VSP, on m'avait orientée. J'ai commencé avec le comité des femmes sans papier et puis j'ai rencontré la Ligue. C'est là où viennent nos trois revendications. On a fait signer la pétition. On avait besoin de 1000 voix pour déposer auprès du Parlement bruxellois. Et puis, le 17 février, la motion a été signée par 4 partis politiques, PS, Écolo, One Bruxelles, et puis la députée indépendante. Alors, notre revendication se base sur quoi? Nous demandons à ce qu'on nous donne un travail légal. Pourquoi nous demandons le travail légal? Là où nous travaillons, nous ne signons pas de contrat. C'est un contrat de bouche à l'oreille. Parfois, nous ne voyons pas les gens qui nous envoient dans des maisons. Par exemple, moi, je suis aide familiale. J'ai fait le métier d'aide familiale. On te dit, voilà, on te téléphone. Ah, voilà, tu es où? On te donne l'adresse, va là-bas. Je prends soin des personnes âgées. Et comme nous sommes dans la position vulnérable, nous voulons survivre. On nous exploite aussi. On nous paye des miettes. Par exemple, moi, en tout cas, par l'heure, j'ai 4 euros. Mais il y a... Il y a celles sortes qui peuvent arriver à 6 euros de l'air. Mais ça commence entre 2 et 6 euros. Ça, on ne voit même pas ces patrons-là qui nous demandent d'aller travailler. Parfois, on te dit, voilà, va au coin là-bas, tu te mets là debout, mon frère va venir, va te donner 200 euros. C'est comme ça. Donc, on n'a pas de compte bancaire, on n'a rien, on ne les voit même pas, on ne les connaît pas. C'est de bouche à l'oreille. C'est pour cela que nous demandons un travail légal. Parce que si c'était légalisé pour nous, les femmes travailleuses, quand je dis les femmes travailleuses domestiques sans papier, il y a aussi des hommes derrière nous, il y a aussi des familles derrière nous. Parce que nous laissons nos enfants entre les mains des autres, entre nos familles. Par exemple, moi, j'ai laissé mes enfants au pays, chez ma grande sœur. Je ne les ai pas vus depuis 2015. Mais je suis ici, j'ai pris en charge la fille d'autres personnes. Et je l'ai éduquée comme si c'était ma fille. Elle est maintenant scolarisée, elle a 8 ans, depuis que je suis venue en 2015. Bon, nous laissons nos familles. À part ça, nous trouvons aussi des personnes âgées. Ça dépend des personnes là où tu vas travailler. Il y a des gens qui vous prennent apprivoisés. C'est-à-dire, je vais donner mon exemple concret. À ce moment où je vous parle, je dois aller travailler. chez une dame. Mais je ne lui ai pas dit que j'ai la conférence ici. Parce que si je lui disais, il va dire non, non, je ne vais pas, tu dois rentrer à 18h. C'est-à-dire, tu es apprivoisé. Tu ne peux pas faire autre chose, tu t'occupes d'elle. Et te voilà. Mais la personne qui t'envoie là-bas aussi ne peut pas agir parce qu'elle sait qu'elle est en train d'exploiter et que tu es payé par les miettes. Et la patiente, elle, elle sait que non, ma famille te paye, alors j'ai tout droit sur toi. C'est pour cela que nous demandons le travail légal. En plus de cela, comme je l'ai dit, il y a aussi, ça, ce sont des abus. Des abus, nous, nous sommes en situation de procédure. C'est pour ça que nous voulons aussi que nous soyons protégés pendant tout le temps de procédure. Comment est-ce que nous pouvons dénoncer ces patrons abusaires sans être refoulés? Parce que nous, on n'a pas la voix. Si tu vas dénoncer quelqu'un directement, ah bon, on te prend, la police est là, on te met on t'enferme au centre fermé, ou sinon, tu es expulsé. C'est ça, donc l'ordre d'équité est sur la table. Et puis, il y a aussi un autre problème. Si au moins on peut reconnaître le travail, comme madame m'avait dit, il y a beaucoup de travail ici qui sont en pénurie. Nous, ce que nous demandons, c'est la formation actrice ou bien d'autres formations, parce qu'il faut avoir des techniques pour aider ces personnes âgées. Il y a tant d'autres qui font aussi, qui travaillent pour aide aux enfants, aide aux personnes handicapées. Donc, tout ça, on a besoin de la formation. Et c'est vraiment un travail qui est en pénurie parce qu'on ne voit pas, on ne voit pas des gens. On ne voit pas des gens parce que, par exemple, comme la fois passée, nous, on avait fait une action le 6 novembre. On avait fait une action devant les partis politiques des filles. D'ailleurs, on nous a réussi, on a eu quand même un entretien avec les députés et tout. Monsieur François Desmet est là. Il nous a bien accueillis. Donc, ce qu'on a dit, le ministre de l'Emploi, qu'est-ce qu'il nous a répondu? Il a dit que voilà, il n'y a pas de porte d'entrée pour venir ici en Belgique. Mais excusez-moi de dire qu'en tout cas, nous, les femmes, quand nous sommes des femmes migrantes, quand nous sommes venues ici, en tout cas, nous ne sommes pas venues, s'il y a une porte principale, nous n'avons pas utilisé la porte de ou le garage. Nous sommes venus ici parce que nous avons fui des problèmes aussi dans nos pays et croyant qu'ici, il y a la sécurité, il y a un peu de soulagement, il y a un peu de la paix, mais ça, il n'y en a pas. C'est pour cela, en tout cas, je suis venue pour vous dire des notoires revendications. Et dans nos trois revendications, qu'est-ce que nous voulons? Il y a un autre problème que je vais souligner. Si le gouvernement, que nous croyons qu'il a la compétence, le gouvernement brissolois et le ministère de l'Emploi, qui a la compétence de résoudre ce problème, s'il ne le fait pas, alors qu'est-ce qu'il y a? Le dumping social va continuer. Parce que si on regarde les titres de service, les femmes travailleuses là-bas réclament les salaires pour faire monter leur salaire et puis pour avoir les bonnes conditions de travail, comme le stipule la C189. Mais elles n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que dans les marchés informels, nous, les sans-papiers, nous sommes là. On nous cherche, on nous donne de l'emploi avec des miettes. Pendant que ceux qui ont signé le contrat n'ont pas ces avantages, n'ont pas l'avantage aussi pour remplir toutes les conditions de travail possibles que la CSA89 stipule. À part ça, il y a aussi les violences que nous subissons, comme je disais là. Moi, en tout cas, je suis très claire, je vais dire, la dame que là où je surveille, elle peut me gronder de la façon qu'elle veut. Elle peut me dire n'importe quoi qu'elle veut, c'est parce que ses enfants payent. Et je n'ai pas le droit de dénoncer ni mon patron, parce que quand je dis à mon patron, voilà, ce que moi j'ai raconté là-bas, c'est pas bien et tout, il dit, oh là là, laisse là, c'est comme ça, c'est normal et tout, je vais te donner encore un peu plus un euro. Voilà. Donc avec des miettes là, toi aussi tu regardes ta situation, les enfants que tu as laissés au pays, les salaires que tu as là, tiens au moins, tu vas penser à 39%. Pour envoyer au pays. Mais écoutez, 6 euros ou 4 euros de l'air, enlever les 39%, qu'est-ce que ça représente? Mais mes enfants sont là, ils ont aussi besoin de manger. Et moi-même aussi, je dois survivre. Donc, en tout cas, nous travaillons dans des conditions difficiles. Nous ne travaillons même pas, nous ne vivons même pas, mais nous survivons en ont besoin. Donc, dans notre cas, par exemple, on est mélangé au squad, les garçons, les filles, dans les chambres, comment, je ne sais pas comment dire ça, mais on essaie de s'organiser en tant que sans-papiers. On a cette amitié-là, on a un bon encadrement, mais ça ne représente rien quand même. Ne représente rien. Ça, ce ne sont pas des conditions de vie réservées aux humains. Alors, dans les cadres de non-respect de l'application des droits, c'est là où nous aussi, le 16 juin passé, nous avons acquis symboliquement les gouvernements bruxellois et les ministres de l'Emploi. Alors, après ça, nous avons déposé notre plainte au Parlement européen. On va nous auditionner au mois de janvier. Donc, nous attendons la réaction des ministres de l'Emploi ou bien du gouvernement bruxellois parce que nous savons qu'ils ont la compétence de résoudre ces problèmes-là. S'ils d'accepter de nous donner l'emploi parce qu'ils ont l'habitude de dire « Ah non, voilà, c'est le fédéral qui a la compétence, ah, ce n'est pas le gouvernement. » Mais nous savons que l'emploi, ça concerne les ministres de l'Emploi. Donc, en tout cas, je ne suis pas ici pour expliquer à long et large tout ce que j'ai vu, mais il y a aussi des femmes qui sont invisibles et qui ne sont pas ici, mais qui vivent les mêmes problèmes que moi. Donc, je vous parle de faits réels. Agissez, s'il vous plaît. Nous demandons en tout cas au gouvernement bruxellois de faire un aval, même si on dit que voilà, c'est le fédéral et tout. Faites d'abord votre aval. Bon, la fois passée, j'avais entendu concernant la formation, la chef de cabinet du parti des filles a dit que voilà, concernant la formation, il y a des entreprises qui ne veulent pas donner l'assurance. Il n'y a pas l'assurance pour protéger les personnes qu'on peut mettre en formation. Mais est-ce que vous avez déjà fait quelque chose? Vous avez demandé à qui? Du moins, rassurez-nous. Ou bien faites quelque chose pour nous parce que nous sommes fatigués, vraiment dépaysés. Nous n'en pouvons plus. Donc, quand nous passons dans les rues, c'est moi, par exemple, hein, la gare de Midi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Si je passe par ici, je ne savais même pas des rires. Je ne me soulevais même pas la tête parce que j'avais seulement l'intention, si je sors de la rue, la police va me prendre et va me mettre au centre fermé. Et je dois rentrer encore au pays, là où j'ai subi beaucoup, beaucoup d'atrocités. Donc, c'est un peu ça que j'allais à vous expliquer. Surtout, je répète encore nos trois revendications. C'était dans le cadre des Legal Pay Matters, donc... L'application des directives sanctions et de la directive victime qui implique la protection des plaignantes durant toute la procédure contre les patrons abusaires. Et D, l'adaptation des dispositifs de délivrance du permis unique pour un accès au travail digne et légal pour les travailleuses migrantes sans papier en région bruxelloise, notamment par un élargissement de la liste des métiers en pénurie, considérant davantage les métiers exercés par les femmes. L'accès à la formation professionnelle dans les secteurs en pénurie et les fonctions critiques essentielles pour les travailleuses sans papier. N'oubliez pas que quand on parle d'une femme, il y a une famille derrière, il y a un homme derrière. Merci beaucoup.
Bon, on ne savait pas trop ce que Taslim et Ernestine nous raconteraient. Donc on voit très très bien qu'il y a une thématique qui domine tout, qui est l'accès au travail. Alors après Taslim et Ernestine, on va écouter ce que va nous dire à ce propos-là Yann. Alors Yann, j'oublie du coup son nom de famille, c'est comment ? De Brabanter, voilà. Voilà. Alors Yann de Brabanter, c'est le secrétaire général de l'Union des entreprises de Bruxelles, le patronat bruxellois, et c'est aussi le président de Bru Partners, qui est l'instance de concertation du patronat des syndicats. Et comme maintenant, paraît-il, la question du travail est régionalisée, on s'adresse à l'autre partenaire, celui qui donne le travail. On lui demande, vous savez que des gens travaillent à Bruxelles, enfin légalement, quelle est votre position ? Oui ? Quelle est votre position comme patronat ? Alors, voilà ce qu'il nous répond.
Un problème croissant est que les personnes qui sont expulsées ou qui se voient refuser le droit de séjour peuvent rapidement disparaître dans l'illégalité. Lorsque des personnes sont sommées de quitter le territoire, La Belgique doit également garantir et exécuter le rapatriement. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait entraîner une perturbation du marché du travail régulier, une concurrence déloyale et la pauvreté. Pour la plupart d'entre eux, les sans-papiers travaillent, trouvent un employeur, mais malheureusement et majoritairement en dehors du circuit légal. Par conséquent, les partenaires sociaux sont d'avis qu'il faudrait pouvoir délivrer des permis de travail B aux personnes ne résidant pas légalement en Belgique. Il s'agit d'une condition nécessaire pour garantir les droits sociaux de ces personnes, en particulier pour couvrir également les accidents de travail. Cela signifie-t-il que les employeurs prônent la régularisation de facto des sans-papiers sur le territoire de la région de la région de Belgique? Non, certainement pas. Mais lorsqu'un grand nombre de personnes se présentent avec un désir clair de travailler et une volonté de s'intégrer dans la société et le marché du travail, nous devons faire le nécessaire pour cela, pour rendre cela légalement possible, sinon ces personnes disparaîtront dans l'illégalité, la pauvreté et la criminalité. Voorlichting, bewustmaking en preventie is belangrijk. In eerste instantie moet prioriteit gaan naar preventieve en sensibiliserende maatregelen boven een repressieve aanpak. De mensen zonder papieren zelf, maar ook de werkgevers, de werknemers, zelfstandige overheidsinstanties, moeten geïnformeerd worden over de opportuniteiten, de mogelijkheden, maar ook over de risico's. Onder meer het risico op discriminatie op de werkvloer. Inspirons-nous également des bonnes pratiques qui existent déjà dans certains secteurs, tels que celui du travail intérimaire, la construction, le transport et la logistique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne continuation de votre réunion. Merci.
Bedankt, meneer. Bon, ce type, vous allez faire des délégations ensemble avec le patronat, alors, devant le ministre de l'Emploi à Bruxelles?
Ah, ça pourrait, mais certains partis sont opposés, malgré ces déclarations-là. Hein. Et c'est les employeurs bruxellois ici. Les employeurs flamands ne sont pas toujours du même bord.
OK. Alors, comme le Facebook Live fonctionne, il y a une question qui est un peu en dehors du sujet, mais on va respecter les gens qui la posent. Mamadou Abdoulaye nous dit bonjour. Je voulais poser une question sur la situation des luttes contre les centres fermés. Je pense sincèrement qu'il faut accentuer la lutte contre les centres fermés. Voilà, c'est pas forcément le sujet, mais tout est lié. Et beaucoup des gens qui sont sans papier sont passés par là. Et puis on s'en sortit. Je sais pas qui veut éclairer cette question. Il y a des gens très compétents dans la salle. Et puis il y a toujours Soti, qui est notre experte du jour.
Oui, la lutte contre les centres fermés continue. Doit se poursuivre. Il y a plusieurs combats qui sont menés. Donc, pour l'instant, il y a plus ou moins 600 places, hein, 650 places en centre fermé. Juste pour rappeler le nombre de personnes sans papier. Donc, ne pas croire, en tout cas, les déclarations politiques qui conduisent à dire qu'on va, si les gens ne rentrent pas, les détenir et les expulser de force. Ce ne serait pas possible. Il faudrait des dizaines d'années pour ça. Au-delà de ça, il y a une coalition qui s'appelle Coalition Move, qui regroupe plusieurs associations. C'est les associations du groupe Transit, pour les personnes parmi vous qui connaissaient le groupe Transit. Et ce sont des organisations qui rendent des visites en centre fermé, mais qui aussi essayent de mettre en contact les personnes détenues avec des avocats. Et puis, il y a d'autres initiatives, comment ne pas citer Getting the Voice Out, qui vient rentrer dans les centres fermés et donner la parole aux personnes en centre fermé. Il y a aussi toute la sensibilisation des passagers lors des moments d'expulsion. Parce qu'il faut savoir que la détention ne se justifie que parce qu'une expulsion est prévue. Et normalement, ne se justifie pas en dehors de ce cadre-là. Donc il ne faut pas penser détention en dehors des expulsions.
Voilà. Merci. On fait une pause de 10 minutes. Le bar est ouvert pour les gens qui veulent. Et on peut se retrouver ici.
Vous écoutez les Lundis Cosmopolites, un forum politique autour de la multiculturalité bruxelloise. L'émission que vous écoutez a été enregistrée le 4 décembre 2023 à la maison commune AXL. Que font les sans-papiers? Que faire des sans-papiers?
Je vous propose de reprendre. Oui, installez-vous. Bah, c'était déjà assez riche en informations, avec ce tango d'une part, avec aussi et surtout les témoignages. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, on a eu de la théorie, on a eu beaucoup de pratiques avec des expériences particulières, mais qui démontrent un peu tout ce qui dysfonctionne finalement dans notre système. On a beaucoup entendu parler de la question du travail. Et donc, ce que je propose, c'est de parler d'autre chose. Entre guillemets, il n'y a pas que le travail qui compte dans les journées d'un être humain, en tout cas, j'espère. Peut-être commencer avec vous, Farah, puisque vous êtes avocate, et pas que, parce que je dis que j'étais pas journaliste. Enfin, j'étais journaliste et pas que. Peut-être revenir sur cette question que je vous avais un peu posée avant de commencer le débat. C'est finalement, une personne sans papier, quels sont ses droits en termes de santé, en termes de mobilité? Je vais donner un exemple très concret. En arrivant ici, j'ai pris le tram pour arriver jusqu'ici. Il y avait un contrôle des transports. Alors, j'ai vu une personne partir en courant. Soit elle n'aimait pas le contrôleur, soit il y avait un autre problème. J'ai supposé que c'était probablement une personne sans papier. Alors, c'est peut-être pas le cas, j'en sais rien. C'est peut-être quelqu'un avec des papiers qui avait fraudé, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je me suis dit qu'on était peut-être un peu dans le débat de ce soir. On parle beaucoup de travail, mais il y a d'autres droits ou non-droits qui ne sont pas accordés à ces personnes. Peut-être nous éclairer un petit peu sur ces aspects-là. Je ne veux pas vous frustrer, mais essayer d'être plus concis dans vos interventions. Sinon, Henri va me tirer les cheveux. Quand Henri, c'est lui qui parle le plus. Essayez d'aller, je ne vais pas dire au concret, mais voilà, pour permettre aussi à tout le monde d'intervenir et j'espère d'avoir des questions plus tard.
D'accord. Merci du coup de m'avoir introduite. Mais c'est vrai, il y a toute cette problématique dont on parle souvent, c'est la criminalisation en fait des sans-papiers. Du coup, en fait, le simple fait d'être en situation irrégulière, au final, c'est un délit. Et donc, quelles que soient au final les démarches ou les activités qu'ils fassent, si à un moment ils se mettent trop à découvert, ils peuvent être criminalisés, ils peuvent être mis en centre fermé, et leur simple délit, c'est d'être ici dans une situation au final qu'ils n'ont pas choisi. Et d'ailleurs, ton exemple par rapport au transport, alors oui, on peut prendre un ticket et du coup, encore faut-il avoir les revenus, hein. On revient un peu sur le travail, mais voilà, leur réalité par rapport à leur précarité. Mais s'ils peuvent en tout cas prendre un ticket, à la limite, ils sont moins en danger. Mais si du fait de leur précarité, ils n'en ont pas, toi et moi, on va, si on fraude, effectivement, on aura une petite amende. Mais eux s'exposent au risque du coup qu'on procède à un contrôle d'identité, qu'on puisse effectivement se rendre compte qu'ils n'ont pas de séjour régulier. Et alors à ce moment-là, qu'ils puissent être arrêtés. Donc c'est vrai qu'ils sont très limités. Pour répondre à ta question par rapport aux soins de santé, heureusement qu'il y a quand même l'aide médicale urgente. Mais c'est quand même des procédures et des démarches qui sont très administratives. Des formulaires, de réquisitoires à remplir avant de pouvoir faire appel à un médecin, avant de pouvoir se faire soigner, alors qu'on parle quand même de personnes qui sont sans séjour régulier et d'une procédure vraiment très, très administrative déjà pour, au final, des ressortissants belges. Quand je leur explique, c'est très opaque, c'est très technique, c'est très compliqué, simplement pour être soigné. Et donc, on a parfois des personnes qui sont sans papier et qui sont même endettées parce qu'ils sont allés aux urgences et qu'ils n'avaient pas les informations sur quel formulaire remplir ou auprès de quel médecin ils pouvaient se renseigner. Donc, en fait, dans toutes les étapes de leur vie, ils vont être bloqués et ils risquent simplement d'être criminalisés.
J'avais une question et je rappelle, parce que j'ai omis de le dire, que Farah Feghi est avocate. C'est bien aussi de présenter vos fonctions respectives quand vous exprimez. Mais on a aussi beaucoup effectivement parlé de droit. Donc on a entendu que les interlocuteurs avant vous, avaient une connaissance très fine finalement, que ce soit de l'organisation politique. Hein, ils savent qui est ministre, qui ne l'est pas. Je suis certaine qu'un Bruxelles lambda ne pourrait même pas donner le nom de nos ministres, tellement cette lasagne est incompréhensible. Donc il n'y a pas de méconnaissance totale des droits fondamentaux, mais il y a quand même des zones d'ombre, et je suppose que c'est dans ces cas-là qu'ils viennent vers vous. Donc vous avez dit que pour la santé, ça allait plus ou moins, pour la mobilité, c'est pas génial, hein, disons-le comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres droits qui sont un peu méconnus ou qui ont besoin d'être renforcés, parce qu'on ne sait pas, nous, finalement. En termes de mobilité, il y a cet exemple qu'on a cité avec à la STIB, mais à l'extérieur, on a entendu un témoignage très concret. On ne peut pas retourner au pays normalement. Ça fait des années qu'on est coupé de sa famille. C'est pourtant un droit qu'on pense élémentaire. Donc, qu'est-ce qu'il en est à ce sujet ?
Par rapport à un droit auquel on ne pense pas, c'est le droit au logement. Et c'est pourtant aussi... enfin, voilà, c'est vraiment aussi très basique. C'est un besoin. À ce niveau-là aussi, ben, c'est très compliqué. Et alors, effectivement, par rapport aux familles, ben, y a toute cette coupure avec leur famille au pays. Mais il y en a aussi énormément qui ont de la famille ici et qui sont au final en situation irrégulière, mais qui ont encore tout un réseau familial amical, mais qui n'est pas pris en compte comme si ce n'était pas important et que ça ne pouvait pas justifier un séjour ici. Et c'est très violent. Voilà, on disait que pour le regroupement familial, il y avait les parents, les enfants mineurs, mais on a aussi des frères, des sœurs, ou alors des parents de personnes majeures, qui entretiennent des liens très très forts. Et même cet argument-là n'est pas entendu par les autorités. Moi, je me faisais cette réflexion encore récemment en rédigeant un recours. Je vais essayer d'être brève et pas trop technique, mais donc la possibilité d'avoir une vie familiale, c'est un droit fondamental. Et d'ailleurs, du coup, les autorités, quand ils prennent des décisions, par exemple, un ordre de quitter le territoire, ils sont censés prendre en compte justement ce droit fondamental qui est d'avoir une vie familiale pour faire la balance entre l'application, du coup, plus ou moins stricte de la loi et la garantie de ce droit fondamental qui est le droit à la vie familiale. Et actuellement, on voit dans la motivation des autorités que pour faire cette balance entre l'application de la loi et l'atteinte à ce droit fondamental, il justifie cette atteinte par « il faut bien appliquer la loi ». Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, de dire « pour pouvoir appliquer la loi et ne pas porter atteinte, justement, de façon trop démesurée à ce droit fondamental, il faut absolument qu'on trouve une justification. Notre justification, c'est « il faut appliquer la loi ». Donc, en fait, au final, on bafoue complètement ce droit fondamental et la mauvaise foi des autorités est à peine cachée.
Qui veut reprendre, peut-être pour compléter ou aller dans...
Un tout petit point sur la...
Pierre Verberen.
Oui, Pierre Verberen. Donc, je suis directeur général de l'action sociale au CPS de la ville de Bruxelles, mais pas que. Voilà. Donc, effectivement, il y a un portrait de précaution et de manque sur le droit et les droits des personnes sans titre de séjour en Belgique. Mais je pense que c'est aussi important de progressivement visibiliser un autre volet qui est le même, hein, mais dans l'autre sens, qui est quand même de rappeler qu'il y a une série de droits. Donc tout ce qui vient d'être dit est juste, et je te remercie de l'avoir dit. Et je trouve que c'est important aussi de progressivement donner du souffle et donner quand même quelques éléments qui rappellent qu'il y a une série de droits. Alors évidemment, on a parlé de l'aide médicale urgente, qui est le droit aux soins, qui est en fait, qui couvre effectivement après quelques démarches administratives, mais pour ceux qui tentent d'appeler une mutuelle, vous savez que c'est pas facile non plus d'avoir une mutuelle, donc c'est qui couvre en fait tous les soins préventifs et curatifs, donc préventifs y compris. Ça signifie aussi le droit à toutes les consultations périnatales de l'ONE et de Kinédiosine, donc de tout l'accompagnement de ce côté-là. Ça signifie la protection, je trouve que c'est important de le dire, de la scolarité des enfants. Les enfants sont scolarisés par les communautés, et les communautés garantissent la scolarisation des enfants. Ça signifie aussi le droit à l'aide juridique gratuite. Donc, comment dire, c'est quand même important de savoir qu'il y a une protection juridique qui existe pour toute personne qui est en situation difficile par rapport aux lois, que ce soit pour protéger son statut de séjour ou pour d'autres éléments. Donc, il n'y a pas que la protection au regard du statut de séjour. Il y a évidemment le droit au travail, le droit du travail. Quand on parvient à prouver qu'il y a travail, qu'il y a lien de subordination, et donc tout le droit du travail s'applique, mais je crois que c'est quand même important de donner du souffle et de montrer qu'il y a des champs. Alors, ils ne sont pas gagnés, hein, donc c'est un combat permanent, etc. Mais c'est important de montrer qu'il y a quelque chose qui existe et qui peut être tenté. Alors, je dis bien que c'est tenté avec... toute la question du risque, hein, donc du risque qui est permanent. Mais je pense que cette question du risque est un vrai débat de société qu'on doit aussi avoir sur avec nos collègues sans titre de séjour. C'est que c'est quelque chose avec lequel ils vivent évidemment plus que moi. Donc ça c'est absolument sûr. Mais si on met le risque en permanence comme étant le point, l'alpha et l'oméga d'une vie, c'est pas une vie. Donc il y a une discussion à avoir sur qu'est-ce qui peut gonfler et qu'est-ce qui se rétrécit.
Mais justement, pour rebondir sur vos propos, on a entendu les témoignages. Quand la plupart arrivent, ils sont complètement démunis. Est-ce qu'il n'y a pas... alors, ils ont des droits, et tant mieux, des droits élémentaires qui ne sont pas toujours respectés. Vous avez parlé de prouver le lien de subordination quand on est au travail. Allez le dire à un chauffeur Uber à vélo, de prouver son lien de subordination. On sait très bien que c'est un casse-tête juridique, on ne reviendra même pas là-dessus. Mais alors, ils ont des droits élémentaires, mais est-ce qu'il n'y a pas alors un problème d'accès à l'information de prime abord quand ces personnes arrivent, puisqu'on a entendu des témoignages? Ils ne peuvent compter finalement que sur leur réseau respectif ou sur les personnes qu'ils rencontrent pendant une occupation. Donc, il y a aussi un problème d'accès à l'information, et ce n'est pas la journaliste qui le dit, c'est la citoyenne en l'occurrence.
Oui, il y a un problème d'accès à l'information. Donc, moi, je suis directrice d'une paracommune à La Forêt.
Oui, Tammy Mountessay.
On a donc un service juridique, un service social. Et en fait, les familles chez nous viennent souvent les mamans par l'alphabétisation. Et là, on découvre des familles, effectivement, qui sont sans papier et qui sont en Belgique, à Bruxelles, depuis des années. Avec des enfants, avec un mari, et ils sont dans la survie. Et donc, dans le système de la survie, nous, on s'inscrit justement dans la recherche de l'information. En fait, on gratte, on passe notre vie à gratter, et alors on essaie d'avoir des communications avec dans les CPS, ce sont aussi des hommes et des femmes comme nous, et qui sont aussi touchés par des situations, et parfois, il y a aussi des stratégies communes qu'on co-construit pour obtenir de l'aide. Par exemple, moi, j'ai une famille, quand c'était la période du Covid, et bien du jour au lendemain, on a eu une série de plusieurs papas dans le quartier, plus de boulot, plus rien, parce que c'était des serveurs dans les cafés. Donc voilà, effectivement, ils gagnaient entre 10 et 12 heures, 40 euros par jour, 7 jours sur 7. Et donc du jour au lendemain, plus rien, voilà. Et donc il y a un loyer à payer parce qu'ils ont un bail, comme tout le monde, voilà. Et donc on a commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Et avec les, est-ce que je peux nommer le CPS? En tout cas, il y a des CPS, franchement, avec lesquels on a pu négocier des loyers. Et ils ont pris en charge des loyers. Donc voilà, ce sont des choses qui... Alors, c'est du bricolage, on est dans la survie. Si on s'adresse directement à la règle, c'est toujours non, ça n'existe pas. Voilà, il y a la carte médicale urgente, il y a des droits élémentaires au niveau scolarité, mais ça s'arrête là. Mais les associations de terrain... Ben, nous, on est dans la relation humaine. Et je pense que parfois, dans la relation humaine, on arrive à obtenir des choses. Et j'ai trois familles comme ça en tête qu'on a suivies depuis maintenant entre 7 et 8 ans. Et alors, parfois, ça arrive, hein, les miracles. Eh bien, toutes les trois viennent d'être régularisées. Et donc, voilà. Je voulais dire que quand même... Mais par contre, c'était la course à tous les documents possibles, inimaginables, pour justifier de l'intégration, du parcours d'intégration. Les mamans qui faisaient du bénévolat, on demande à tous les opérateurs de nous signer pour grossir le dossier un maximum. Et je suis aussi obligée de le dire que parfois, il y a des avocats, ce sont des voleurs. Mais j'ai eu des familles qui ont été roulées dans la farine, à qui on a pris du fric et à qui on a soi-disant promis des papiers qu'ils n'ont jamais vus. Et donc, ça existe aussi de l'autre côté. Et donc, ça aussi, il y a un travail de... Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'ils aillent s'informer et surtout aussi travailler les peurs. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure madame, sortir de chez soi, avoir peur du contrôle. Quand on a des gamins qui ont 12 ans, 13 ans, on a déjà peur pour ces gamins parce qu'ils vont se faire arrêter par la police. 18 ans... C'est quelque chose de, c'est vécu comme quelque chose de terrible, l'âge de 18 ans. Fêter l'anniversaire d'un gamin qui va avoir 18 ans, c'est, s'il n'a pas été régularisé, c'est vraiment une sentence de mort sociale. Et donc voilà, c'est tout ce travail-là que nous, on essaye de mettre en place. Mais sinon, nous avons des familles qui travaillent, qui signent un bail. Il y a des propriétaires qui signent, qui acceptent des baux avec des personnes sans papier. Et c'est un combat de tous les jours. Et il faut vraiment que les politiques se... prennent leur courage à deux mains pour mettre en place une régularisation en bonne et due forme, comme en 2009 et en 99, parce que je pense qu'on n'aura pas le choix, en fait. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix.
J'ai posé la question qui fâche. Déjà, vous avez parlé de miracle, alors que certains estiment qu'il y a un processus qui devrait mener à cette régularisation. On va dire que ça fait partie du débat. Certains de nos témoins ont parlé d'espoir, ils en ont besoin finalement. La question qui fâche, c'est, alors on parle d'une campagne de régularisation, est-ce que la Belgique a les moyens d'y arriver? Et je ne parle pas que d'économiquement, je parle d'un point de vue politique. Alors vous cuisinerez le politique qui est présent si vous le voulez, mais moi je vous pose peut-être la question à vous, en tant qu'acteur de terrain, est-ce que vous estimez qu'il est... Parce que vous parlez de nécessité, mais est-ce qu'il y a la possibilité de... Est-ce qu'on a les outils pour le faire?
Alors, les outils, je ne sais pas quels sont les outils, mais tout ce que je sais, c'est que l'économie souterraine aujourd'hui génère des millions, si pas des milliards. Je pense que si on veut que ce pays puisse redorer son blason et remettre justement des personnes au travail pour pouvoir faire enrichir la Belgique, finalement, d'un point de vue légal, c'est là qu'il faut aller chercher le fric, d'un point de vue purement marchand. Purement marchand, il y a de l'argent à aller chercher. Les travailleurs sont là, ils veulent bosser, ils veulent avoir des droits, ils veulent. Moi, les papas m'ont dit, on veut payer des impôts, on veut payer nos impôts. Et donc allez, en dehors de la question gauche-droite, il y a au moins cette question économique qui devrait rassembler les partis politiques.
En principe, oui. C'est pour ça que j'ai dit que c'est des questions qui fâchent. Hein,
En fait, je pense que Soti a quand même présenté la réalité sous un angle qui est très bruxellois, et c'est d'ailleurs l'indice cosmopolite pour Bruxelles. Et donc je crois que c'est vraiment important, quand on se pose la question de est-ce que la Belgique, et donc en l'occurrence ici Bruxelles, peut se permettre une régularisation, de faire un focus sur Bruxelles. Donc on a parlé ici, selon l'étude sur la mortalité, hein, donc 52 000 personnes sans titre de séjour. Si on prend en tout cas l'aide médicale urgente, Bruxelles représente 67% de l'aide médicale urgente de tout le pays. Ça signifie que les deux autres, qui constituent 90% de la population, prennent ensemble 33% des personnes à l'aide médicale urgente. Si on prend l'enjeu des réfugiés, on est aussi à 30% sur Bruxelles. Si on prend les Ukrainiens, on a 21%. Si on prend les demandeurs d'asile qui sont accueillis dans des structures d'accueil quand il en existe une, on a 15-16%. Donc il y a toujours une surpondération bruxelloise qui est très forte. Et donc la question, en tout cas, sur la question migratoire est une question très bruxelloise. Et la question des personnes sans titre de séjour est, elle, singulièrement bruxelloise. Elle est vraiment très, 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 très bruxelloise. Elle est devenue tellement bruxelloise que... comment dire, aujourd'hui, il n'y a plus une seule structure, plus un seul équipement collectif qui n'est pas à un moment ou l'autre confronté au fait qu'il est utilisé par un nombre de personnes sans titre de séjour qui est proportionnellement tout à fait surreprésenté. Je pense par exemple aux consultations de l'ONE, où dans certains quartiers, les consultations de l'ONE, c'est 60% de personnes sans titre de séjour. Hein, donc si on prend des écoles, il y a des écoles où le nombre de personnes, d'enfants qui sont sans titre de séjour est assez énorme et qui ne rentrent pas dans le financement des écoles. Donc en clair, on est face à une question bruxelloise qui fait que l'ensemble des infrastructures sont utilisées par une population qui est la 20e commune, la ville. C'est vraiment important. Donc je crois que c'est pas qu'on ne peut pas se le permettre, c'est qu'on doit le faire. Au-delà de la question de l'emploi et au-delà de la question de faire payer des taxes, pour faire en sorte que ça fonctionne dans Bruxelles. Hein. Et puis alors, si je prends l'enjeu de l'hyper-précarisation d'une partie de la population, donc là j'ai parlé de façon générale de l'ensemble des services et des équipements collectifs, mais quand je parle de l'hyper-précarisation et des enjeux de santé mentale que ça pose de vivre en permanence dans la clandestinité, etc., etc. Hein, on voit, il suffit de marcher dans Bruxelles pour constater que la situation se dégrade en permanence, quoi. Donc, il y a un énorme souci de collectif, de cohésion sociale, qui est en train de se poser avec une représentation très très forte de personnes qui sont hyper précarisées, parmi lesquelles, parce qu'elles ne sont pas toutes sans titre de séjour, loin s'en faut, mais parmi lesquelles les personnes sans titre de séjour sont, eux, hyper représentées. Et donc, si on le prend sur le bout de la vie collective de façon générale, comme si on le prend sur le bout de l'hyper-précarité, en fait, c'est pas que Bruxelles... Est-ce qu'on peut se permettre de faire une régularisation? C'est qu'on doit faire une régularisation. Et c'est pas un débat gauche-droite, ou c'est pas un débat comme on en a discuté jeudi dernier avec Fedazil dans un autre colloque. C'est pas une question entre une vision plus humaniste ou une vision plus humanitaire, une vision plus ordonnée, orthodoxe, des gens. C'est un besoin absolu en termes de cohésion sociale.
Farah Peggy, peut-être pour votre vision aussi.
Du coup, je vais confirmer ce qui a été dit. c'est qu'effectivement, au final, je pense que les considérations qui vont à l'encontre d'une régularisation, tout simplement même, hein, d'une politique migratoire plus humaine, selon moi, ne sont pas objectives, car si on devait effectivement se rendre compte de l'impact d'une régularisation, d'une politique migratoire plus humaine, elle serait, et alors là on revient avec des arguments plus économiques et moins humains, mais si rentable. Et c'est vrai qu'on entend parfois l'argument de certains partis qui me dérange de dire oui, bah effectivement, que les étrangers coûtent parce que, vous savez, les avocats en droit des étrangers puisent dans les caisses avec leurs honoraires qui sont réglés par l'aide juridique. Parce que heureusement que l'aide juridique, d'ailleurs, c'est un droit qui est garanti aux personnes en demande de séjour. Mais en fait, ces personnes en demande de séjour qui ont besoin du soutien d'avocats pour voir leurs droits fondamentaux, la plupart du temps, hein, voilà, défendus, on ne peut pas justement leur dire que leur simple présence et le simple fait qu'ils veulent défendre leurs droits fondamentaux vient creuser dans les caisses de l'État. Et donc, si on voulait effectivement sortir de ce débat humain qui serait plus subjectif et qu'à la limite, on se mettrait justement sur un débat plus objectif, ça coûte énormément d'avoir une politique migratoire non seulement inhumaine et en plus souvent illégale. Le nombre de recours qui ont été introduits contre des décisions de l'Office des étrangers suite à la grève de la faim, des sans-papiers qui demandaient à être régularisés sur la base de l'article 9 bis. On a dit qu'on n'en parlerait pas trop aujourd'hui, mais la crise de l'accueil, où au final le gouvernement sait qu'il est dans l'illégalité la plus claire, bah effectivement, une politique migratoire inhumaine et illégale, ça coûte énormément d'argent à l'État. Et donc, on n'aille pas dire aux étrangers et aux sans-papiers qui veulent défendre leurs droits qu'ils coûtent de l'argent alors qu'ils demandent qu'une seule chose, c'est de participer au final à la société.
Merci Farah. Je ne sais pas s'il y avait des choses à compléter ou est-ce qu'on peut
passer aux questions. J'ai une question Facebook Live, mais je ne suis pas sûr que...
En live aussi, on peut prendre les questions. Hein, ceci dit, n'hésitez pas. Hein. Enfin, sauf si c'est des questions personnelles pour Henri, mais le reste...
Donc, qu'est-ce que je fais? D'abord l'assistance ou d'abord le Facebook Live?
S'il y a des questions, on va commencer par priorité à ceux qui sont là.
Avec micro, alors.
Avec micro, c'est mieux.
Bonjour, oui. Moi, c'est... Oui, c'était une question par rapport à l'aide médicale urgente. Il y a une mobilisation de l'associatif il n'y a pas très longtemps pour que ça soit uniformisé au niveau des procédures dans toute la région Bruxelles-Capitale, puisque maintenant, c'est des procédures différentes par commune, ce qui complique encore plus les choses. Donc, on a parlé du fait qu'il y a des droits qui existent en théorie pour les sans-papiers, mais ça reste en théorie, et c'est des droits qui sont très difficilement accessibles, déjà pour monsieur et madame tout le monde qui ont des papiers, et encore pire quand on n'a pas de papier. Alors si en plus les démarches administratives sont compliquées et ne correspondent pas aux besoins de la population sur le terrain, puisque la population à Bruxelles, c'est pas grand Bruxelles, on bouge de commune en commune, et d'avoir des procédures différentes pour l'AMU, ça complique les choses. Et donc j'avais entendu qu'il y avait une tentative d'uniformer en tout cas les formulaires dans les différents CPS. Je ne sais pas où est-ce que ça en est, ça.
Nulle part. Enfin, on n'est pas très loin dans le sens où... Tout le mouvement qui consiste à vouloir harmoniser les pratiques entre 19 CPS sont, à mon sens, voués à quand même des résultats qui sont très faibles et avec un général nivellement vers le bas. Donc, à titre personnel, moi, je ne suis pas particulièrement favorable à ce mécanisme d'harmonisation. Je pense qu'à un moment, il faut mettre en place, puisqu'il n'y aura pas de fusion des communes sur Bruxelles très prochainement, je pense qu'il faut mettre en place un mécanisme de supracommunalité. Ça veut dire faire en sorte que les CPS qui le désirent, et c'est faisable, aient un seul mécanisme d'aide médicale urgente commun à plusieurs CPS. Donc, enfin, personnellement, c'est plus dans cet esprit-là que j'essayerai de travailler et faire en sorte que tout ce qui n'a aucun impact en termes de compétences territoriales et qui n'est pas localisable sur une commune, devrait trouver une solution de façon supracommunale, donc en partant de l'ADN communal, parce que c'est... on va avoir tout ce débat-là, on peut l'avoir, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais donc, sur l'harmonisation entre les 19 CPS, je crois qu'on est arrivé à ce stade-ci à avoir une carte médicale qui est commune à tout le monde, que quasi personne n'utilise. Donc c'est pour vous dire la lenteur d'un processus d'harmonisation des pratiques. Par contre, moi je crois vraiment qu'il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait un district bruxellois qui soit conjoint aux 19 CPS, en commençant par ceux qui le souhaitent.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui.
Excuse-moi, moi je suis Alberto, de Val de Sans-Papiers aussi. Peut-être ma question concerne trois personnes qui sont là sur place, donc... Moi, quand on parle de droits, ce n'est pas exactement... En tant que sans-papier, ils disent que voilà, il n'y a pas de droit. Mais on sait qu'il y a le droit qui est là en théorie. Mais quand est-ce qu'on peut voir ces droits-là? Comment est-ce qu'on peut l'appuyer? Qui peut appuyer ces droits-là? Or, quand on parle de soutenir une personne, quand est-ce qu'on peut soutenir une personne jusqu'à où? À votre point de vue, comment est-ce que vous pensez la situation doit être censée? Qui? Ou comment?
C'est une vaste question, en tout cas.
Ah oui.
Mais donc, effectivement, nous, en tant qu'opérateurs de terrain, on travaille avec les familles sans papier. Parfois, on va chercher l'information. Parfois, elle n'est pas, on ne la trouve pas naturellement. Effectivement, elle ne vient pas à nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a des collègues qui sont juristes, qui travaillent avec les services, les différents CPS. Et parfois, il y a aussi des interprétations qui sont différentes d'un CPS à un autre. Et on va le plus loin qu'on peut avec les familles. Et il y a des familles chez nous qui sont là depuis 10 ans. Je vous dis, voilà, 10 ans, et pour nous, c'était désespéré. Et finalement, la régularisation a eu lieu. Donc, ça arrive. Il ne faut pas perdre espoir. Parce que je pense que vraiment, peut-être c'est bateau, mais il ne faut pas perdre espoir. Parce que si on dit que tout est foutu, en 99, c'était pareil. On nous avait dit que tout est foutu, pas de régularisation. Et finalement, il y a eu à un moment donné un ensemble de choses, effet papillon, et ça s'est fait. Et donc, j'ai envie de dire, voilà, nous, on travaille avec les personnes jusqu'à un tel point. Et ce qu'on dit aussi aux personnes, c'est rester inséré et ne pas avoir peur. Rester en contact aussi avec les associations, avec les juristes. Garder aussi votre position de citoyen, parce que vous êtes citoyen de ce pays. Il y a juste des papiers. Bon, bah, les papiers. Alors oui, il y a ce qu'on voit aussi chez les personnes sans papiers, c'est qu'il y a une stratégie de garder un maximum de papiers. On garde tout. En termes de santé mentale, c'est aussi quelque chose qui doit être traité. Mais en tout cas, vous êtes des citoyens de ce pays. Vous êtes là depuis 10, 15, 20 ans. Vous participez à la vie économique de ce pays. Et il faudrait bien, à un moment donné, que les partis politiques se prennent leurs responsabilités. Et je pense qu'on a quelques responsables ici à qui on posera la question.
Farah veut réagir et Pierre aussi. Donc.
Mais justement, j'y pensais et je voulais rebondir sur ton intervention du début qui était très intéressante. C'est vrai qu'en tant que militant et en tant qu'avocat, on va toujours dire qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qui ne va pas. Mais au final, induire aux personnes qu'elles ont des droits et peut-être leur en faire la liste et ainsi alors peut-être avoir la possibilité d'avoir plus d'informations et donc savoir un petit peu vers où on va, mais au moins ne serait-ce que ces personnes soient pleinement informées de leurs droits, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. On demande souvent qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il n'y a pas et comment est-ce qu'on peut essayer de bricoler alors que partir en fait de la liste de tout ce qu'il y a. Alors voilà, moi, je sais que le paysage associatif évolue, donc je ne suis pas toujours très au fait de tout ce qui existe, mais on devrait pouvoir avoir une ressource ou un point de contact. Comme on disait, souvent, le point de contact, c'est des collectifs de sans-papiers. Mais pourquoi pas, justement, ne serait-ce qu'une liste, je ne sais pas si elle existe, ou un point de contact, on pourrait dire, voilà, vous avez droit à ceci, à cela, à ça. Et alors, partir justement plutôt de la base positive pour pouvoir construire, plutôt que de dire, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on va essayer de réparer. Donc, au final, je pense que c'est une bonne question. Et je ne sais pas si ça existe, et je ne sais pas si quelqu'un a l'information ici, mais c'est quelque chose qui devrait être, en tout cas, plus connu.
En tout cas, ouais, si ça n'existe pas, c'est le moment de la mettre en place.
En tout cas, il y a quand même pas mal de ressources qui existent. Je vois l'ADDE qui est ici présente.
Oui, mais vos présences respectives prouvent aussi qu'il y a des personnes qui sont engagées.
Je pense qu'il y a quand même un réseau qui est assez dense. Et donc, tu l'as expliqué. Et vraiment, moi, je pense que pour répondre à votre question, je pense qu'il y a un grand réseau associatif et même de services publics local, qui est quand même assez fort. Par contre, si je peux me permettre un élément additionnel à ça, donc qui vient s'ajouter, moi je pense que des combats sociaux sans la force de ceux qui portent ce combat, c'est-à-dire de vous, des personnes sans titre de séjour et leur mobilisation collective dans la revendication, mais aussi dans la création de solidarité concrète et opérationnelle, me paraît être simplement une répétition de l'histoire absolument nécessaire. Ici, on est face à une population qui est largement précarisée. Vous êtes largement dans des situations de précarité. Et moi, je ne connais pas beaucoup de situations dans l'histoire où le salut est venu de l'extérieur. le salut vient quand même beaucoup de l'auto-organisation et de la capacité à faire des alliances avec plein de gens qui sont vraiment disposés à faire des alliances. On est ici, mais je crois que c'est une des choses qui a quand même fort manqué ces 30 dernières années, c'est la constitution de quelque chose, en fait, d'une auto-organisation plus forte qui existe, mais je pense qu'il faut aller jusque à la création de services que vous rendez, que vous construisez. Je me souviens d'une discussion à Liège avec une tontine sur la prise en charge des soins médicaux qui n'étaient pas payés par le CPS. Donc, je crois qu'il y a quand même un espace qui va demander beaucoup d'engagement, mais en fait, je ne crois pas que le salut vienne de l'extérieur.
Voilà. Éric Corel avait une question.
Et c'est la dernière.
Oui, moi je voulais rebondir sur... C'est une des interventions de Pierre et Bruxelles dans tout ça. Donc, j'entends les appels à la solidarité, à la lutte, au mouvement, etc. Et j'y souscris totalement. Et donc, mais ma question, en réalité, est-ce qu'on ne fait pas, nous, alors qui est nous, qui sommes-nous, mais nous, est-ce qu'on ne fait pas partie, disons, du problème et pas de la solution, dans la mesure où on replante la narrative de l'ennemi. Et pour moi, la question, disons, de la migration, de papier, etc., est un problème de l'État-nation. Un migrant, c'est quelqu'un qui a passé une frontière nationale. Du point de vue de Bruxelles, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le lien social, c'est les nouveaux arrivants, c'est les différences, c'est la question cosmopolite. Et donc, pour cela, je pense que accepter la catégorisation de l'État fait partie du problème. Une ville a beaucoup de gens qui sont non-résidents. Une ville ne sait pas vivre sans les non-résidents. Et donc, parce que les sans-papiers, c'est pas seulement... Enfin, moi, j'ai aussi fait, dans mon temps actif, quelques estimations à ce niveau. Et donc, peut-être 50 000 gens sans-papiers, migrants sans-papiers, mais il y a 150 000 gens à Bruxelles qui sont résidents à Bruxelles sans être enregistrés. Il y a plus de 100 000 étudiants universitaires, dont la moitié... cote sans être enregistré dans la commune. Donc, il y a toute une série de gens qui sont là et dont il faut s'occuper et qui ne sont pas officiellement dans cette catégorie. Il y a 350 000 personnes qui arrivent tous les jours à Bruxelles et qui posent visiblement pas de problème pour lesquels on doit entretenir les tunnels à nos frais. En réalité. Donc, en fait, ce que je propose, moi, c'est de penser une ville, que c'est normal dans la ville, qu'il y a une complexité de gens présents dont on doit offrir des services. Le bus et le tram, il est là aussi pour ces étudiants qui ne sont pas enregistrés ou pour les nafteurs qui... Bon. Donc, mon argument, en réalité, c'est de changer de narrative, de penser d'urbanité et de l'opposer, vraiment de l'opposer à la logique de l'État national qui est ethnique communautaire. Et d'ailleurs, de sortir aussi, nous, de notre logique communautaire. Et donc, par exemple, de faire des parapluies ou des réseautages multilingues et multiculturels à Bruxelles. Et donc, bruxelloises et pas communautarisées à Bruxelles. Et je pense qu'il est donc important d'opposer l'urbanité à la nationalité et dans ce sens-là, de parler totalement différemment de ce type de soi-disant gens avec un problème. Et donc, pour être très concret, j'arrête là. À New York, quand on arrive, on peut avoir des problèmes avec l'État, New York, etc., mais on reçoit un visa de New York. Et donc, ce qu'on pourrait faire... c'est de lutter, nous, au niveau de Bruxelles, de la région de Bruxelles, que tous ceux qui sont là, mais pas seulement les migrants sans papier qui pourraient être illégaux, hein, donc, non, mais les étudiants, tout le monde donc, dont on doit s'occuper, reçoit une carte de séjour de Bruxelles et qui d'abord liste les droits qu'on a déjà pour tout le monde et lutte par rapport à l'État belge en tant que ville et s'oppose donc au gouvernement fédéral. Enfin bon, mon argument, c'est qu'on se soumet à la légalité nationale sans développer une légalité propre de l'urbain. Et je pense que c'est ça le cosmopolitisme.
Je peux juste t'inviter à rejoindre un groupe de travail qui était créé sur la carte d'identité ou le visa bruxellois. Donc c'est un sujet qui est bien vivant pour l'instant.
Donc, dernière question avant de passer à la dernière partie de la soirée.
Oui, parce que sinon, François de Smet, il va parler 5 minutes et ça sera à cause de vous. Hein.
5 minutes, c'est dur. Voilà, on a une question d'Abdel qui s'impatiente parce qu'on ne l'a pas encore prise. Alors, c'est une question un peu technique, hein, donc j'espère que quelqu'un pourra répondre. Et c'est une question, voilà. J'aimerais bien savoir pourquoi certaines organisations et syndicats revendiquent le permis unique pour les personnes sans papier, sachant que c'est une loi qui a été instaurée juste pour exclure les sans-papiers du droit du travail. Donc ça me semble un peu confus, mais à ce titre, ça a l'air d'être...
Alors, le permis unique, c'était le permis B avant, et donc ça n'est pas nécessairement pour exclure, c'est pour lier. Donc c'est, par contre, ça rend dépendant. C'est pour lier un travailleur à un employeur. Et donc c'est le sésame, c'est devenu maintenant un permis qui rejoint l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour. Je vous disais, hein, une des voies de migration, c'est le travail. Eh bien, le permis unique, c'est le document qui a les deux facettes. Le problème qu'on a, c'est que ça rend les travailleurs étrangers hyper dépendants de leur employeur. Et quand on est mal intentionné, eh bien, on en abuse. Le problème ici, c'est que les personnes sans papier n'ont pas accès au permis unique. De nouveau, il faut rentrer dans son pays d'origine, même quand on a des compétences en pénurie. Hein, et puis, il n'y a pas de liste de pénurie à Bruxelles, par ailleurs. Ça n'existe pas et ça se sait bien. Hein. On est censé rentrer dans son pays d'origine et trouver un employeur de là-bas pour qu'il fasse la demande de permis à Bruxelles et attendre patiemment la réponse sur place. Donc le permis unique n'a rien fait de plus que ce que les permis de travail qui les précédaient organisaient, c'est-à-dire fixer un travailleur à un employeur.
Merci pour vos interventions. Je vous applaudis. C'est au tour de François de Smet. Pas d'inquiétude, ça ne sera pas moi, ça sera Henri, il est plus gentil.
Alors François de Smet est le politique de service. Défi n'était pas dans le panel du premier lundi. On s'est engagé à faire du pluralisme politique dans notre cycle. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a invité Défi. Bon, on ne va pas tourner autour du pot. On est des vieux. On se connaît depuis longtemps. On a été collègues au Centre pour l'égalité des chances dans le département migration, qui va plus tard se transformer en Myria, dont François de Smet a été le premier directeur, voilà. Et dans l'entre-deux, on a une collaboration peu connue, mais tout à fait intéressante. C'est que quand j'ai quitté le Centre pour l'égalité des chances, et après que François l'ait quitté aussi, il a travaillé dans une petite association, et il a commencé à faire des chroniques pop-philo à la RTBF. Et ces chroniques ont manifestement plu beaucoup à la directrice du CIRE de l'époque, qui était Fred Mahouet. Et Fred a insisté pour que François devienne un des chroniqueurs de la revue que nous avons fait pendant un certain temps, qui s'appelait Migration Magazine. Alors, je sais qu'on ne se divise pas, mais si vous suivez un peu la vie politique, vous savez que François est un homme politique un peu particulier. Donc on ne sait pas si on doit forcément faire la différence entre l'homme politique, le philosophe et l'ancien directeur de Myria. Toujours est-il que, et ça, on l'a vu à certains moments, notamment au moment de l'occupation du béguinage, il a une compétence largement au-dessus de la moyenne, une connaissance largement au-dessus de la moyenne des politiques de ces questions-là. Moi, je me souviens qu'il a débattu avec Théo Franken quand il était encore dirigeant. Donc, en fait, comme Théo Franken est un excellent débatteur, il lui a très bien tenu tête, et bon, ça montre quand même quelque chose. Alors, je retiens la proposition d'Éric Coren, que je n'avais pas prévue dans les questions que j'allais te poser, donc je la retiens. Mais la fin, disons, du texte de présentation de cette soirée vise essentiellement le politique. Donc, on a vu on a mesuré l'ampleur du problème et je ne sais pas dans quel sens on peut le dénouer. Donc, dans le numéro de Migration Magazine que j'ai pris, qui est dans mon sac, mais je n'ai pas pu aller le chercher parce que mon micro est trop court, mon câble est trop court, tu écris une chronique tout à fait prémonitoire par rapport à notre débat. Donc, là-dedans, il dit, il y a quelque chose d'absurde, on offre gratuitement des cours de français et de néerlandais aux sans-papiers, c'est idiot, parce qu'on sait très très bien que la plupart d'entre eux n'auront pas le droit de séjour. Et François dit, dans cette chronique, à moins que ceux qui l'offrent savent parfaitement que ces gens ne partiront pas, et qu'il est donc logique de leur donner des outils pour que leur insertion dans la société se fasse bien. Et donc je finis par me demander si la situation actuelle n'est pas finalement le point d'équilibre entre des tensions totalement contradictoires. Donc en général, j'entends bien ce que nous disons tous pour les gens qui travaillent un peu avec les personnes sans papier, qu'on doit les régulariser. Mais nous entendons un autre bruit, et probablement que ce bruit est plus fort, qui consiste à dire, il suffit de voir les résultats des élections dans les pays proches, dans les régions proches. L'autre bruit consiste à dire, on n'est pas assez ferme avec les sans-papiers, regardez, ils assassinent des Suédois, hein, et donc, il faut passer à l'acte, quoi. Ça ne va pas de distribuer des ordres de quitter le territoire qui ne sont pas exécutés. Donc finalement, on est dans une situation d'entre-deux, on sait qu'ils sont là, on, de temps en temps, on expulse quelques-uns, voilà. Mais pour un politique, c'est insupportable, cette position, s'installer là-dedans. Donc comment, comme politique, et je dirais en plus, comme politique d'un parti historiquement bruxellois, tu abordes cette question? Le pragmatisme, c'est bon pour les acteurs de terrain, mais pas pour un politique.
Enfin, donc ça, c'est ta première question. Ouais. OK. D'abord, bonsoir.
Et il y a une minute pour répondre.
Non, il y a tout le temps pour répondre.
Je plaisante.
D'abord, merci de l'invitation. Merci pour ta présentation. C'est un plaisir de te revoir et de revoir tant d'autres visages amis. C'est vrai que j'ai une particularité. Tu as fait une gentille biographie. Je crois que dans les politiques, et a fortiori dans les présidents, j'en suis sûr, je dois être le seul qui est dans sa vie, sous ta direction d'ailleurs à l'époque, fait de l'accompagnement social et juridique, en ce compris pour des sans-papiers. C'est pas juste une réalité que moi je connais par le biais statistique, j'ai aidé matériellement, j'ai passé des coups de fil à l'Office des étrangers, j'ai fait tout ce que des centaines d'assistants sociaux font, que ce soit au CIRE, chez Meria aujourd'hui et partout ailleurs. Et donc j'ai un vrai bagage sur la mort sociale que vivent ces gens. Et c'est pas juste des statistiques, même si ce qui a été dit est très juste. Au fond, ils sont entre 100 et 200 000. Et en effet, je vais rebondir là-dessus, il y a une immense hypocrisie. Parce que si vraiment l'État voulait se débarrasser de tous les sans-papiers, il faudrait multiplier les centres fermés par 20 et devenir un État demi-totalitaire. Aller chercher des gens chez eux, faire des propositions sur les visites domiciliaires puissance 40. C'est impossible, c'est pas souhaitable, c'est pragmatiquement pas souhaitable, quand bien même on serait plutôt à droite sur l'échiquier de politique, et c'est évidemment insupportable lorsqu'on est un peu plus de gauche ou du centre. Donc il y a une immense hypocrisie, parce qu'on sait que la plupart des gens vont rester. Mais c'est comme s'il était impossible pour un certain nombre de politiques, singulièrement au nord du pays, je vais quand même en dire un mot, parce qu'on peut parler du gouvernement bruxellois, du gouvernement fédéral, mais il y a un gros problème qui est que même les francophones les plus progressistes de ce pays ont un mur au nord du pays, et qu'il faut au fédéral chaque fois trouver un accord avec eux, et que c'est quand même une grosse partie du problème. C'est comme si il était impossible. La régularisation est devenue presque un sujet tabou politiquement. Ça, depuis, il y a eu 1999-2009, on le voit à présent, mais d'une manière phénoménale. À tel point qu'en effet, je leur jette en partie la pierre, mais je vois que c'était très difficile, les partis progressistes qui sont entrés dans la Vivaldi, alors qu'on sortait quand même des années Franken, c'est-à-dire quand même aller très loin. On refusait des visas humanitaires, on réexpulsait au Soudan des gens malgré les risques avérés de torture qu'ils pouvaient subir. Enfin, on a remis des enfants au centre fermé alors qu'on était arrivé à les en sortir. Donc c'était quand même des années absolument catastrophiques. Et malgré ça, PS et Écolo ne sont pas arrivés. Ils sont arrivés à certaines choses, je le reconnais, mais ils ne sont pas arrivés à ancrer le principe d'une régularisation, ni même de critères de régularisation dans la loi. Tellement c'est onbespreekbaar au nord du pays. Et donc, il y a cette grande hypocrisie, parce qu'on voit bien qu'à côté de ça, et ça a déjà été suffisamment dit, non seulement c'est pragmatiquement impossible d'expulser tout le monde si on le voulait, mais en plus ce serait stupide. Alors, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut régulariser absolument tout le monde et qu'il faudrait que chaque personne qui mette un orteil sur le territoire belge ait un droit de séjour, parce que je trouve que philosophiquement, ça ouvre aussi des questions vastes, c'est-à-dire que tout être humain, alors, tout être humain n'est pas à égalité dans sa possibilité d'arriver matériellement en Belgique. Et donc, dans un grand système néolibéral, on met à égalité ceux qui ont les moyens d'arriver et ceux qui ne les auront jamais. Donc moi, je serais plutôt pour des visas, notamment de travail, et une migration économique beaucoup plus ouverte. Mais en attendant, et en ayant un monde un peu plus juste où un jour il n'y aurait plus de frontières du tout et tout irait bien, il est clair qu'il faut des critères de régularisation et qu'il n'y a pas aujourd'hui une majorité politique pour y arriver. On en a fait l'expérience, je ne vais pas éluder le débat de l'emploi bruxellois, on va y venir, mais quand même sous la casquette fédérale, je tiens à le rappeler, on est les seuls à avoir déposé une proposition de loi pour inscrire dans la loi des critères de régularisation et on a mis le travail dedans. On a mis à ce que les enfants, avoir des enfants scolarisés, des attaches familiales et sociales durables. On a mis tout ça et on a été, bon, on a été soutenu par les engagés et le PTB. Ça n'a pas suffi, si vous savez compter. Je pense que le PS écolo n'avait rien contre le projet, mais ils sont coincés dans une majorité. Et c'est donc quasiment impossible d'amener ce débat alors que nous savons que c'est la solution. Et donc, nonobstant le débat bruxellois, nonobstant tous les visas. Les cartes de séjour régionales qu'on pourrait un jour imaginer, je suis désolé de vous dire que la solution, elle est d'abord au fédéral. Il est question de savoir si, dans un pays où le droit de séjour reste une compétence fédérale, même dans la partie de séjour du permis unique, on aura demain des partis qui sont capables d'arriver dans une négociation dans un gouvernement fédéral et de dire, ben, désolé, pour des questions de droit, mais même pour des questions de besoins économiques, parce qu'il y a toute une série de secteurs où on pleure pour des bras et des cerveaux qu'on ne trouve pas en Belgique, parce que les autochtones, si je puis dire, veulent de façon pas le faire, qu'on ne trouve pas les compétences. Ici, on a des tas de gens qui ont les compétences, on ne les utilise pas, c'est du gâchis. J'ai un collègue qui s'appelle Georges Boucher qui n'arrête pas de dire que chaque chômeur qu'on arrive à mettre à l'emploi, c'est 40 000 euros dans les caisses de l'État. Ben, c'est a fortiori encore plus vrai pour un sans-papier qu'on met à l'emploi. Donc c'est du gâchis, et du gâchis dont la clé politique se trouve d'abord au fédéral.
Donc, alors, on va passer sur la proposition, moi je trouve super séduisante, d'Éric Corail. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas moyen, avec les compétences que la région a, qui donc maintenant est compétence pour l'emploi, il n'y a pas moyen de contourner les verrous fédéraux? Et donc, d'émanciper Bruxelles autant qu'on peut de ce carcan fédéral.
Alors,
c'est du rêve ?
C'est un débat que j'ai déjà eu avec certaines personnes ici, avec Bernard Clerfeil lui-même, puisque forcément je m'intéresse beaucoup au dossier.
Qui est de ton parti.
Oui, tout à fait. C'est mon ministre et je trouve que de manière générale, il fait du bon boulot. Là, clairement, je sais qu'il y a des interprétations divergentes et je n'ai pas de souci à entendre les points de vue et c'est passionnant. Mais vraiment, le problème du permis unique, c'est qu'il est vraiment à 50% composé d'un permis de travail et à 50% composé d'un permis de séjour. Et que dans les critères d'examen du permis unique, il n'y a rien à faire. Vous devez théoriquement, tout le monde sait que c'est pas fait pour, évidemment, vous devez théoriquement faire la demande depuis l'extérieur et que théoriquement, si vous êtes en séjour irrégulier dans le pays d'origine, vous n'avez théoriquement pas accès au point d'entrée. Et oui, on va me dire, oui, mais c'est la région qui est supposée faire la recevabilité. Et je réponds à ce moment-là du débat, oui, mais c'est la loi fédérale que nous ne pouvons pas changer en région bruxelloise et qui impose que la région fasse ce critère de vérification et vérifie le statut de séjour. Et donc, on tourne en rond. Si c'était le problème, si la région avait le pouvoir magique d'avoir comme certains nous le disent, ce pouvoir régalien de régulariser, de donner des titres de séjour toute seule. Ben pardon, mais ce n'est pas l'identité politique de mon ministre qui poserait problème. Il suffirait que tout le monde fasse 5 km en Wallonie, fasse la demande au Forum et à la ministre Montréal, qui elle est dans le camp du bien puisqu'elle est socialiste. Et bizarrement, ça n'arrive pas. Et bizarrement, elle, on ne la traîne pas devant un tribunal symbolique. Tout comme on ne traîne pas assez, je trouve, Madame Demort et les membres du gouvernement Vivaldi, parce que c'est eux qui ne font pas le job. Ça veut quand même bien dire. Je veux bien qu'on fasse beaucoup de reproches à Bruxelles, mais bizarrement, on ne fait pas les mêmes reproches à la Wallonie qui a exactement les mêmes compétences. Donc si la Wallonie ne le fait pas, alors qu'elle a un gouvernement encore plus progressiste théoriquement, pourquoi est-ce que Bruxelles ne le fait pas non plus? Est-ce que ce serait parce que les uns seraient gentils ou d'autres méchants, ou est-ce que c'est parce que les deux régions n'ont pas cette possibilité et que ça se trouve vraiment au fédéral? J'ai une analyse bassement politique de l'affaire, c'est que je pense que le PS écolo fort marie réellement de ne pas avoir réussi à trouver un accord sur la régularisation au fédéral est très sous pression à Bruxelles, surtout à Bruxelles où la situation, en effet, se justifierait bien plus parce que c'est là que se trouve Notamment la plupart des demandeurs d'asile, ensuite déboutés, c'est là que se trouve l'emploi, c'est là que se trouve, parce que c'est un centre urbain, les occasions d'emploi pour qu'on soit dans la légalité ou non, ils sont très fortement sous pression, il faut un valet noir et ça tombe sur nous. Alors, ok, je peux comprendre 5 minutes, mais réellement, aller dire que la région bruxelloise a le pouvoir toute seule de régulariser des gens, ce n'est pas vrai. J'aimerais que ce soit vrai, même si allons plus loin dans le raisonnement. Le jour où ce sera vrai. Mais faisons de la politique fiction au départ de ce que nous propose Éric Corrèze. Et vraiment, là, je suis ouvert. Ça veut donc dire qu'on imagine une Belgique où la compétence d'octroi complète du permis unique, en ce compris dans sa capacité de séjour, est du ressort des régions. OK. Comment vont réagir les régions? Est-ce qu'on va avoir un phénomène de dumping social? Est-ce qu'on va avoir tous les sans-papiers qui vont aller dans une région plutôt qu'une autre? Est-ce que le marché, dans ses bienfaits et ses défauts, va faire en sorte que tout ça trouve une harmonie? Moi, je ne suis pas contre. Mais il se trouve que réellement, là, la clé, notamment et surtout légale, elle se trouve au fédéral. Je ne suis pas sûr que nos amis flamands vont sauter dans le plan du premier coup. Mais pourquoi pas? Moi, je suis assez ouvert à l'idée que Bruxelles, en effet, a vraiment une spécificité propre par sa diversité, par le type d'emploi qu'elle propose, par le fait que, non seulement pour les sans-papiers, mais aussi pour les migrants flamands et wallons, et les nafteurs flamands et wallons, c'est le poumon économique de ce pays. Et c'est donc normal. Et je profite quand même pour dire, on est, nous, bruxellois, parfois injustement pénalisés. Nous sommes 10% de la population, nous produisons 20% de la richesse, mais nous ne recevons pas les moyens, notamment du fédéral, parce que les impôts se payent sur le lieu de résidence et pas sur le lieu de travail, on ne reçoit pas les moyens pour faire face à l'ensemble des problèmes que nous avons. C'est le cas quand on veut faire un métro, c'est le cas aussi quand on veut accueillir les populations. Parce que le gouvernement bruxellois, avec ses défauts et ses qualités, je rappelle, il y a des témoins ici qui peuvent l'attester, que les dispositifs d'accueil qui permettent soit à certains sans-papiers, soit à des demandeurs d'asile qui devraient être hébergés par fait d'asile, de ne pas être à la rue, heureusement que la région bruxelloise fournit aussi cet accueil. Elle le fait là, pour le coup, complètement en dehors de son scope, parce que le fédéral considère qu'un sans-papier, il n'a plus théoriquement à s'en occuper, puisqu'il est plus supposé être là. Donc c'est cynique, mais c'est vrai. Donc moi, je suis pour examiner toutes les pistes d'avenir, mais pas au point de demander à mon ministre de faire quelque chose d'illégal et de se mettre hors la loi. Or, c'est ça qu'on nous demande. Et donc, si on nous trouve un moyen technique arrivant à faire quelque chose qui reste dans les clous de la loi et que mon ministre ne se retrouve pas éventuellement en prison, j'ai pas de souci. Mais sinon, que chacun prenne son bâton de pèlerin et aille expliquer, comme nous l'avons fait au Parlement fédéral, PS, Écolo, MR et tous les autres, changez la loi et inscrivez dans la loi des critères de régularisation, à commencer par le travail.
Bien, alors, je pense que c'est le moment où la salle pose des questions à l'homme politique. Donc nous avons entendu, au fil des échanges, à quel point c'était important de régulariser les sans-papiers par le travail, là où l'économie est demandeuse. On a entendu aussi le monsieur tout à l'heure, dont vous pourrez voir la tête si vous regardez le Facebook après, parce que là, on ne l'a pas vu. Donc, et là, on a quand même quelqu'un qui nous fait une leçon de réel politique. On aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, Céline Caudron du MOC.
D'accord. Moi, je vais lancer la danse alors, parce que personne ne souhaite vraiment que Bernard Cafaillé finisse en prison, mais en tout cas, rien ne l'empêche à Bruxelles d'adopter une liste de professions en pénurie, ce qui débloquerait la situation pour les travailleurs sans papier. Bruxelles n'a pas de liste de professions en pénurie, la Wallonie là. Et ce qui explique la différence entre la ministre de l'Emploi wallonne et le ministre de l'Emploi bruxellois. Ce que la ministre de l'Emploi wallonne fait et ce que le ministre bruxellois ne fait pas, c'est déclarer des dossiers recevables, même s'ils sont incomplets. Et donc, en fait, ce qu'on demande aux ministres régionaux de l'Emploi, c'est de jouer pleinement leurs compétences en matière d'emploi et de ne plus faire le bouclier du fédéral. Personne ne dit, quasiment personne, ne dit que les régions ont les mains libres pleinement pour délivrer des permis uniques et donc le volet séjour et travail à des travailleurs sans papier. Par contre, la région bruxelloise ne mène pas le combat. Et ça, on le voit dans les dossiers de permis uniques déposés à Bruxelles.
Céline Caudron du MOC. MOC Bruxelles.
Merci, oui. On a eu l'occasion déjà d'en parler, en effet, parce qu'avec la Ligue des travailleuses domestiques, qui est soutenue par le MOC depuis le début, on a rencontré des filles, puisqu'effectivement, une des revendications de la Ligue, c'est d'élargir l'accès au permis unique, puisque c'est l'outil qui existe pour le moment, aux travailleurs sans papier qui sont déjà sur le territoire en train de travailler dans la clandestinité. Et donc, nous, on ne peut plus entendre ça, de dire il faut d'abord qu'on débloque au fédéral, il faut d'abord que les Wallons se bougent, c'est pas possible, ça. On ne peut plus entendre ça. On est dans une situation particulière à Bruxelles, on l'a déjà dit toute cette soirée. On n'est pas n'importe quelle ville. On est une ville-région avec une population plus dense de travailleurs sans papier ici, avec un autre contexte socio-économique. Et donc, il faut, comme Eric l'a dit, avoir le courage politique. C'est pour ça que les copines de la Ligue des travailleuses domestiques ont fait le tribunal du courage politique où le gouvernement bruxellois a été condamné. Il faut le courage politique de prendre des décisions, en effet, pour la situation qui est invivable à Bruxelles pour une bonne partie de la population. On ne peut plus attendre que ça se bouge dans les autres niveaux de pouvoir. À côté de ça, bien sûr, on continue à militer pour une vraie régularisation avec des critères clairs et permanents, bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne doit pas lâcher. Mais en même temps, cette petite entrée-là de l'accès au travail légal, on ne parle pas de la régularisation, là, on parle de l'accès au travail légal, ça peut être régional, si le gouvernement régional en a le courage. Et donc, effectivement, on s'adresse à des filles, à M. Claire Failly, parce que c'est les ministres, mais on a aussi en ligne de mire le gouvernement bruxellois, puisqu'on l'a dit aussi, il y a certains partis de la majorité gouvernementale bruxelloise qui se disent soutenir nos revendications, qui sont dans la majorité, et on ne voit toujours rien bouger. Je pense au PS et Écolo en particulier, et ça nous énerve largement.
Mariam ?
Oui, mais en fait, la question, et ce n'était pas un teasing du tout moqueur, c'est parce que c'est en lien effectivement à ce qui avait été dit, et en l'occurrence, je ne sais pas si on m'entend correctement. Donc je pose la question, je suis un sans-papier et j'ai eu l'occasion de participer à une rencontre avec vous et votre cabinet pour préparer votre proposition de loi pour la régularisation qui a malheureusement été votée négativement par le PS Écolo Groen, je lis. Hein. Ma question est, est-ce que vous, monsieur De Smet, allez exiger une régularisation pour monter dans une majorité, pas comme certains partis soi-disant progressistes qui ont sacrifié les sans-papiers pour pouvoir gouverner, merci d'avance. La question, elle est concrète. C'est pour ça que je disais qu'effectivement...
Oh, c'est la plus gentille jusqu'ici. Mais...
Ah, je n'avais pas sous-entendu qu'elle était méchante. Hein.
Oui.
Tout d'abord, merci par rapport à cette proposition de loi que vous avez déjà faite. Ma première question, c'est plus par rapport à la dernière proposition de loi que les citoyens ont fait sur la campagne In My Name et qu'on n'a pas encore eu de retour et que nous attendons toujours un débat politique par rapport à cette proposition de loi. La deuxième chose, c'est par rapport aux formations que les sans-papiers demandent. Si je me rappelle bien, c'est une compétence régionale. Qu'est-ce qui empêche la région de pouvoir faciliter la formation aux sans-papiers? Parce que ce qu'on remarque, la plupart du temps, on laisse les sans-papiers qui arrivent ici, jeunes tout frais, qui sont aptes à travailler, à être formés. On attend qu'ils atteignent 60 ans ou bien 58 ans pour qu'on leur demande d'aller se former et faire chercher un boulot. Est-ce que ce n'est pas une perte pour la Belgique? Actuellement, on parle de la régularisation. Il y a pas mal de partis progressistes qui disent qu'ils sont OK pour une régularisation. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ces partis mettent leur ego quelque part et puissent s'accorder sur un point que c'est nécessaire, c'est obligatoire actuellement là où la Belgique se trouve de pouvoir être d'accord sur un point, régulariser les sans-papiers avec des critères clairs. Merci.
Réponse globale, si j'ose dire, si c'est possible.
Oui, je n'ai pas la réponse à tout. Je suis étonné que tu dises qu'il n'y ait pas de liste de métiers en pénurie en région bruxelloise, mais on va vérifier si c'est le cas. Je promets de regarder très rapidement pourquoi, parce que ce n'est pas la formation que j'ai, mais je peux me tromper et ça arrive souvent. Le débat est des technico-juridiques. Sincèrement, de ce qu'on me dit, de ce que je pense, je ne vois pas comment la région bruxelloise peut aujourd'hui à ce point contourner le fédéral. J'ajoute une dimension quand même importante. C'est peut-être ce que la région wallonne fait. Il y a moyen de regarder qu'à moitié les dossiers, de se dire je suis la région wallonne, j'enfreins un petit peu la loi et j'envoie des dossiers délibérément pas complets et je les envoie au fédéral et comme ça je peux dire aux sans-papiers concernés, aux employeurs, regardez, on a fait le job. Mais si après le fédéral, ce qui arrivera c'est dans 100% des cas, refuse quand même le dossier parce que lui il n'oubliera pas de vérifier si la condition du statut de séjour est là, refuse le dossier, est-ce qu'on a rendu service à tout le monde ? Au bout du compte, il n'y a pas de dossier. On aura peut-être envoyé un signal politique 5 minutes. Le titre de séjour et le permis de travail, donc le permis unique, ne sera pas accordé. Vous aurez fait travailler accessoirement des administrations pour rien. Et vous aurez fait gonfler une machine médiatique. Alors là, il y a tout l'aspect qui est de dire, et je peux l'entendre, oui, mais pour installer le rapport de force et pour faire céder notamment le gouvernement fédéral, il faut bien que les régions s'y mettent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons aujourd'hui une secrétaire d'État qui est capable de laisser dormir des gens, des hommes seuls, mais aussi par le passé des femmes et des enfants, dehors tout seul. Je ne suis pas certain que c'est le zèle de l'administration du travail bruxelloise wallonne qui va l'empêcher de dormir. Un dossier complet où il n'est pas, et s'il n'est pas complet, il sera de retour à la région et on retourne à la case départ. Donc qu'on puisse faire mieux, certainement, qu'on puisse aller jusqu'à contourner le fédéral, je ne vois toujours pas comment, même si je suis prêt à poursuivre le débat. Et alors oui, mais c'est, on va être honnête, c'est facile à dire, on a deux députés, on peut en espérer peut-être 3, 4 ou 5 demain, il faudrait un paysage complètement éclaté, ce qui n'est pas exclu pour qu'on monte à bord d'un gouvernement fédéral. Dans cette hypothèse-là, ben oui, très clairement, nous en ferons une condition. Je ne vois pas comment on peut continuer avec 150 000, 200 000 personnes sur notre territoire. Encore une fois, je vais être honnête, je ne pense pas qu'on peut régulariser tout le monde. On peut régulariser une large partie avec des critères clairs et ouverts. Et simplement humanitaires. Ça n'a plus aucun sens de renvoyer des gens qui sont depuis 5, 10, 15 ans sur le territoire. Mais j'ajoute que si vous régularisez et si vous régler la question des personnes vivant sur le territoire, il est logique de se demander, tiens, mais c'est quoi le plan? Est-ce que c'est de manière perpétuelle faire des régularisations ou des critères tous les 10-20 ans? Ou est-ce que sur les flux, on change aussi les choses? Est-ce qu'on est plus ouvert sur les visas de travail? Est-ce qu'on suit, en ce compris, des pistes d'un Pierre Verberon et d'un François Jomen, qui sont pourtant pas des néo-capitalistes, d'aller assez loin dans leurs petits bouquins, notamment sur la perspective de quotas, même de loterie, comme le font les Américains? Est-ce que le système aujourd'hui est très injuste? Et peut-être qu'une loterie ou que des systèmes de quotas peuvent paraître injustes, mais ils seraient quand même moins injustes que la réalité d'aujourd'hui. Mais ça veut dire un débat sans tabou, à droite comme à gauche, notamment chez les syndicats. Aller parler de migration économique chez une centrale syndicale, en général, vous n'allez pas être extrêmement bien reçu. Il y a des gens qui trouvent tout à fait normal de donner des droits aux gens qui sont arrivés ici, mais pas à ceux qui les demandent depuis l'extérieur et qui sont encore là-bas. Et là, à droite, mais aussi à gauche, il va falloir faire du chemin.
Merci François. Alors on va arriver... Non, je suis désolé.
Ah oui, pardon. Mais c'est trois revendications classiques, on la connaît. Moi, on m'a dit la même chose que ce que la jeune dame qui était ici a dit, à savoir qu'il y a un problème assurantiel. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas encore, mais je vous assure qu'il y a quelqu'un au cabinet qui y travaille, on cherche la formule pour que les employeurs chez qui seraient faites les formations puissent être assurés, même quand il s'agit d'employer un sans-papier. Mais il n'y a pas de problème de malvolonté politique, il suffit juste de trouver le mécanisme. Mais je promets de revenir aux nouvelles.
Alors le rite pour terminer le lundi cosmopolite, c'est 3 minutes d'Edgar Choc qui doit conclure avec le brio qu'on lui reconnaît. Edgar est président de la Ligue des droits humains qui est porteuse de ce projet.
Ah si seulement, c'est déjà trop. D'abord, merci à toutes et tous et aux intervenants et intervenantes. Je vais peut-être vous surprendre en commençant par vous dire que sur la question de la liberté de circulation, la Ligue n'a pas de position. Et ce n'est pas un hasard, c'est qu'on n'est pas d'accord, en fait, entre nous. Et notamment parce qu'il y a deux syndicalistes au conseil d'administration qui ont dit oui, mais... Et c'est des arguments que je trouve tout à fait audibles et qu'il faut pouvoir discuter. Donc on n'est pas fâchés. Mais sur la question de la sécurité sociale, comment on pense la question de l'acquisition des droits dans un monde où il y aurait une liberté de circulation. Donc c'est évidemment l'horizon qu'on souhaite pouvoir atteindre. Mais dès qu'on essaie de se mettre d'accord sur les modalités de sa mise en œuvre, et on y consacre hélas trop peu de travail, parce qu'on est coincé par en termes de temps pour le moment par l'incurie, mais c'est plutôt l'infamie du gouvernement fédéral, et ça nous empêche parfois de prendre le temps de reculer pour penser à une vraie politique migratoire qui devrait au fond satisfaire aux intérêts des personnes en migration, évidemment, mais aussi des états de départ et des états d'arrivée. C'est les trois polarités dans cette question dont il faut pouvoir réconcilier les intérêts parfois antagonistes. Ce que vient de dire François de Smet à propos parfois d'une certaine réticence syndicale et qui est illustrée à contrario par le caractère relativement ouvert hein, qu'on a pu entendre de la part du représentant du patronat bruxellois. C'est quand même finalement assez étrange de dire que le représentant, le patron des patrons bruxellois, enfin maintenant je dis le patron des patrons et patronnes bruxellois, a un discours plus ouvert sur la question que la totalité des partis flamands, peut-être à l'exception de Groen et du PVDA, qui est un parti bilingue. Mais clairement, Voreut a une position beaucoup plus fermée que celle qu'on a entendue dans la bouche du patronat. Et c'est peut-être aussi une des difficultés du mouvement de soutien aux sans-papiers, c'est qu'on doit aller chercher parfois des interlocuteurs qui ne sont pas les plus naturels dans nos combats habituels. Et je sais qu'au conseil d'administration de la Ligue, j'arrête pas de dire que on doit faire des cartes blanches avec les patrons, et en fait ça nous emmerde, mais c'est il y a probablement d'un point de vue purement pragmatique quelque chose à aller chercher là-bas. De même que je suis toujours rassuré quand Eric prend la parole, parce que je sais que je vais pouvoir mettre quelque chose dans ma conclusion en reprenant son idée. De même que au fond, dans la tension qui a toujours existé entre souveraineté étatique et droits humains, hein, les droits humains, c'est ce qui vient limiter la souveraineté des États sur les sujets, eh bien, on pourrait incarner aussi cette limitation en créant une parasouveraineté régionale sur le modèle new-yorkais, dont j'avoue que je n'en avais pas connaissance, essayer de construire quelque chose qui ressemblerait à une citoyenneté bruxelloise qui accorderait de façon tout à fait ouverte une série de droits qui sont parfois accordés mais méconnus, comme ça a pu être dit au cours du débat. Et puis je voudrais en terminer en disant que la rencontre de ce soir le prouve encore. Il y a vraiment un réseau très très fort de soutien qui a pu d'ailleurs montrer toute son ampleur au moment de la plateforme citoyenne. Il y a au fond un réseau beaucoup plus large que certains n'imaginent, et souvent, je pense, une projection de la part de beaucoup de mandataires politiques, et je ne vise pas François de Smet en l'occurrence, sur la base de... En fait, je pense que beaucoup de mandataires politiques pensent que l'opinion publique, c'est Twitter. Et en fait, non. L'opinion publique, elle est, heureusement d'ailleurs, beaucoup plus riche, beaucoup plus diverse et beaucoup plus sensible à l'étonnement de la rencontre et à se rendre compte que ces personnes sans papier qu'on nous présente comme des flux et des numéros sont en fait des noms et des visages à peu près comme les nôtres. Et c'est là-dessus que je voudrais en terminer ce soir. Merci à tous.
Ici se clôture le lundi cosmopolite du 4 décembre 2023, avec pour thème « Que font les sans-papiers ? Que faire des sans-papiers ?». Le débat a été animé par le politiste Henri Goldman et la journaliste Mariam Bensala. Sotieta Ngo, directrice de la Coordination Initiative pour Réfugiés Étrangers, le CIRE, Tamimunt Essaidi de la maison de quartier Saint-Antoine à Forêt, Pierre Verberen, directeur du CPS de la ville de Bruxelles, François de Smet, président de Défi et ancien directeur du MERIA, le Centre fédéral migration, et juste à l'instant, Edgar Zoc, président de la Ligue des droits humains.